Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Je sais pas si vous avez vu cette vidéo hyper drôle où en fait des gens ont mis des skins sur, je crois que c'est le jeu Batman Arkham Knight, donc le dernier. Et en fait, tu as Batman, le skin de Batman sur le personnage de Catwoman. Et Batman, c'est un Catwoman. Et tu vois donc comment se comporte Batman. Vraiment, il bouge des hanches, il roule du cul, il touche tout le temps son cou, son corps dès qu'il parle. C'est « What do you think I should do ?» pour ouvrir une porte, quoi. Et c'est hallucinant. Et c'est bon, vraiment l'archétype de comment tu sexualises des personnages féminins dans un jeu, mais à outrance, on dirait un sketch, tellement c'est absurde.
Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que tu vois à quel point ces animations-là, qui sont hyper sexualisées, elles sont aussi hyper taffées. Il y a vraiment genre un souci du détail dans l'hypersexualisation. Tu l'as pas dans la caractérisation des personnages et tout, hein, c'est pas grave. Mais par contre, la façon dont elle a de rouler le cul, genre, il y a une équipe de 15 personnes qui s'est dit attention, il faut surtout pas louper le mouvement de hanche.
Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que quand on voit Catwoman à côté de Batman avec une gestuelle normale, du coup, la gestuelle de Batman, bah, c'est pas choquant non plus. Elle fonctionne, comme personnage. Enfin, bon, bref. Absurde. Mais du coup, c'est marrant. Enfin, il y a vraiment un sujet, je pense, à traiter justement autour de la représentation des super-héroïnes au cinéma, parce que c'est quand même un truc. Plus ça va, plus les années passent, là, ces derniers temps, et on a l'impression que c'est un domaine dans lequel on fait d'énormes progrès. Et en fait, est-ce qu'on en fait tant que ça? Parce que j'ai l'impression qu'on s'emballe un peu et que ça y est, on se dit ouais, on a des personnages féminins forts dans les films de super-héros. Et pourtant, est-ce qu'en termes de représentation et de succès de ces films, est-ce que vraiment on commence à rivaliser avec les personnages masculins? Je suis pas sûre.
Ouais, j'ai un peu l'impression qu'en fait, il y a toujours la question qui revient, qui est toujours c'est quoi le problème avec les super-héroïnes? Est-ce qu'on les fait pour les mauvaises raisons? Est-ce que quand on les fait, ils sont bien? Est-ce que les gens qui les aiment juste parce que c'est des femmes? Est-ce que les gens qui les détestent juste parce que c'est des femmes? Pourquoi ils choisissent ces personnages-là? Est-ce que c'est par pur mercantilisme et opportunisme commercial? Et en même temps, est-ce que c'est un problème vu qu'il y a eu un vrai retard? Parce que l'autre jour, on regardait pour s'amuser. Je crois qu'il y a eu autant de films de super-héroïnes depuis 5-6 ans que si tu regardes les 40 années précédentes. Mm. Donc en fait, il n'y en avait jamais. Et d'un seul coup, il y en a eu 5 et tout le monde s'est dit « Oh, faut arrêter, il y en a beaucoup !» C'est parce qu'en fait, il n'y avait rien avant, c'est pour ça, quoi.
Puis au final, on peut se rendre compte aussi qu'elles sont, depuis le début, confrontées un peu aux mêmes problématiques et qu'on peut limite faire une liste exhaustive, non seulement des films de super-héroïnes, mais aussi des problèmes qui les entourent, quoi.
Ah bah du coup, c'est intéressant de se poser la question de genre d'où on part, de quelle situation on part en termes de représentation des super-héroïnes au cinéma. Et du coup, est-ce que les choses sont vraiment en train de changer ou pas? Parce que du coup, la situation de départ, en gros, c'est que les personnages féminins dans les films de super-héros, c'est déjà surtout des personnages secondaires, en fait, parce que pendant toute une période, de toute manière, elles n'ont pas vraiment de...
On te voit venir, tu vas parler de Batman de Tim Burton.
Voilà, par exemple, c'est-à-dire que voilà, c'est ma petite obsession, effectivement, sur le sujet. Non, mais c'est pas le seul, mais c'est vrai qu'en général, les personnages féminins qui interviennent dans les films de super-héros ont des intrigues, appartiennent à des intrigues B et qui en général sont rattachées à des histoires évidemment romantiques ou sexuelles ou voilà. Et par exemple, puisque tu parles de la Catwoman de Tim Burton, c'est vraiment un personnage que moi j'adore, hein, que je trouve absolument brillant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est écrite avec comment dire, elle a pas d'impact sur beaucoup d'aspects du scénario, mais par contre en même temps elle est vraiment réfléchie en tant que personnage justement qui n'a pas beaucoup d'impact et qui en souffre. Mais il y a pas qu'elle, par exemple il y a un personnage comme Black Widow par exemple.
Oula, oui. Non mais elle, en fait j'ai l'impression que c'est vraiment la parfaite représentation de toutes les problématiques, de toutes les limites et de toutes les choses intéressantes qu'il y a sur la super-héroïne, parce que elle est passée de faire-valoir à vraiment flirt global de quasiment tous les Avengers, à vraiment qu'est-ce qu'on fait d'une super-héroïne dans une équipe de mecs. Donc c'était la première super-héroïne du MCU, donc elle était écrite avec quand même un petit peu de malice et d'intelligence sur son rapport aux hommes, le rapport à la séduction, à son corps et tout ça. Et il a fallu qu'elle meure pour avoir droit à son film solo. À un moment où tout le monde s'en battait les couilles, c'était un flashback, c'était genre le dernier créneau possible, parce que de toute façon, elle n'était plus là. Ce qui est quand même assez révélateur. On dirait un sketch tellement c'est absurde.
Ouais, bah c'est vraiment l'idée qu'en fait, on ne sait plus quoi faire de ces personnages féminins s'ils n'existent pas en tant que love interest, quoi.
Ouais.
C'est vraiment ça. Enfin, elle est effectivement très représentative de ça.
Et forcément, du fait que ce soit toujours des love interest dans les scénarios, elles ont aussi une place beaucoup moins importante et beaucoup moins d'enjeux. Contrairement à des Captain America ou des Iron Man, on est rarement sur des enjeux très élevés, sur des menaces à grande échelle. On est plutôt sur des enjeux plus resserrés autour de leur personne. Ou que ce soit par amour ou alors la figure maternelle, on tourne toujours autour de ces thématiques et on n'arrive pas vraiment à s'en détacher. Même au final, dans le film Black Widow, on reste quand même sur des enjeux très personnels, alors que c'était la première fois qu'elle avait son film et que justement, en plus avoir servi dans Endgame pour sauver le monde, là on se serait dit ok, ça peut être vraiment l'émancipation du personnage, mais non, elle reste quand même à une échelle très inférieure et c'est du coup assez bizarre dans cette phase qui était justement censée élever les enjeux, parler du multivers et tout ça, de se retrouver avec au final une petite aventure anecdotique qui reste vraiment à échelle humaine.
On dirait vraiment qu'ils ont tout fait pour torpiller ce projet qui déjà arrivait trop tard en faisant un film au pire moment, comme tu dis, non seulement après sa mort, mais en plus avant une phase où il va se passer plein de trucs. C'est genre, et si on faisait une petite pause, mais petite maison dans la prairie avec la famille de Black Widow? Mais bah non, en fait, on s'en fout, évidemment qu'on s'en fout.
Mais en fait, Black Widow, j'ai un peu l'impression que le film qui arrive super tard, c'est un peu symptomatique des problèmes des super-héroïnes qui pourtant, dans les comics, étaient là très très tôt. C'est le cas de Wonder Woman qui fait partie de la Sainte Trinité avec Batman et Superman. Batman et Superman, ça a pas trop tardé pour qu'ils aient leur film, et pourtant, on a dû attendre 2018 pour que Wonder Woman, qui est la super-héroïne la plus connue du monde, et le droit à son film. Donc au final, Black Widow, qui, bon, peut-être dans les comics, je sais pas trop l'importance qu'elle a, mais j'imagine qu'elle a quand même une popularité qui est moindre que Wonder Woman, le fait qu'elle arrive aussi tard, au final, ça va avec le schéma global.
Oui, et chez Marvel, il a fallu 10 ans et 20 films avant d'arriver au premier film de super-héroïne avec Captain Marvel. Donc là aussi, tu peux parler d'un truc qui arrive en retard, quoi.
En tout cas, un constat assez général jusqu'à encore plus récemment, évidemment, il y a des nuances à apporter, mais c'est que en tout cas, au départ, les super-héroïnes avaient beaucoup de mal. Donc je dis super-héroïnes, mais comme je parle pas mal de Catwoman, ça vaut aussi pour les villains, enfin bon, les... Voilà,
les anti-super-héroïnes.
Les anti-super-héroïnes. elles ont du mal à accéder à un niveau politique de l'intrigue, en fait. La Catwoman de chez Burton, finalement, tout ce qui est... Bah pourtant, elle est très intimement liée dans son histoire à Max Schreck, mais bon, tout ce qui est question d'élection et tout, elle n'agit vraiment que pour ses intérêts personnels. C'est encore plus le cas dans la Catwoman de chez Nolan, où vraiment ce qu'elle veut, c'est sa clean slate pour pouvoir se repartir du bon pied, ce genre de choses. Et finalement, c'est pas tellement mieux chez Matt Reeves, où tout ce qu'elle fait, c'est très lié à ses histoires de famille, ses mystères.
Oui, parce qu'ils ont rajouté en plus le fait qu'elle soit la fille du méchant, qui est pas le twist, mais un des éléments de surprise à la fin, et ce qui rajoute encore plus un degré de famille, d'histoire personnelle et moins d'enjeux politiques, même si du coup, c'est politique son père, le fixe en scénario, mais c'est vrai que ça ramène encore plus un truc terre à terre.
Elle est représentative d'enjeux politiques, mais par contre, c'est pas elle qui incarne le combat, quoi.
Et d'ailleurs, à la fin, je crois que comme dans la Catwoman de Christopher Nolan, elle dit pour moi tout est perdu, enfin vraiment elle est anti révolution politique parce qu'elle se dit Gotham est perdu, je m'en fous, je me barre sur ma moto avec mes problèmes parce que ça démerde-toi avec ce bordel si tu veux.
Oui, c'est ça, donc elles agissent vraiment à un niveau individuel, on va dire, voilà. Et du coup, toi qui es assez intéressé par le personnage de Captain Marvel, est-ce qu'on peut dire du coup que ces derniers temps, est-ce que c'est un personnage qui essayait de prendre le contre-pied de ça, peut-être?
Ouais, alors, je trouve que le film est assez naze, mais je trouve que le principe de ce qu'ils ont voulu faire est assez intéressant, parce qu'ils ont, à mes yeux, essayé de faire le contraire absolu de tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont fait une checklist de tout ce qu'était la super-héroïne au cinéma, en se disant à faire le contraire. Donc, c'est-à-dire tout aussi con que si tu respectes les clichés qui sont là à l'origine. Donc, elle a aucun rapport avec un homme, donc elle a aucun love interest, ce que même Wonder Woman a. qui est quand même assez dingue, puisque la plupart du temps, même dans les, surtout dans les films de super-héros, tu as un love interest, tu as une femme à sauver ou une femme, je ne sais pas quoi, à trouver, ou t'as une espèce de super-héroïne un peu égale en face. Elle se retrouve dans des histoires de la sororité qui est mise en avant avec Maria Rambeau. T'as un rapport avec deux hommes, et ça représente un peu les deux facettes de ce que tu peux avoir hors sexualité avec des hommes, c'est-à-dire que t'as le rapport vraiment de collègue avec Nick Fury. C'est même pas un mentor, c'est vraiment un collègue, c'est quelqu'un, voilà, c'est vraiment le côté buddy movie du film. Et de l'autre, tu as Jude Law qui joue le méchant, le patriarcat, qui veut la freiner, enfermer ses pouvoirs, l'empêcher d'avancer, de s'émanciper, et elle doit l'écraser, lui pulvériser la gueule pour casser la puce dans son dos, oui je vous ai dit que c'était débile ce film, ensuite se libérer et se rendre compte qu'en fait elle est aussi puissante qu'une supernova. Mais le problème c'est que du coup elle est tellement puissante, tellement forte, tellement parfaite que du coup je n'ai pas compris qui était ce personnage. Ouais. J'ai l'impression que eux ne savent pas quoi en faire, d'où la blague de Avengers Endgame où elle arrive, elle tombe du ciel littéralement et tu te dis mais qu'est-ce que tu faisais avant espèce de conne, parce que franchement le monde avait besoin de toi, ils n'arrivent pas à le justifier, donc ça la rend encore plus ridicule, alors que le problème c'est pas elle, c'est comment ils l'écrivent, comment ils la mettent en scène. Et dans Captain Marvel 2, ils se sont dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour masquer le fait qu'on ne sait pas quoi faire d'elle. Du coup c'est devenu un film avec trois personnages féminins qui s'appelle The Marvels.
Oui, voilà, c'est, ben en fait, on n'arrive pas à faire de l'individualité correcte, quoi.
Oui, puis même ce que tu dis, en fait, Geoffrey, sur la façon dont a été écrite Captain Marvel, c'est-à-dire en opposition de toutes les normes de genre, ça prouve bien aussi qu'il y avait un rejet de la figure véritablement de la super-héroïne, donc du personnage féminin au cinéma. Et évidemment, on peut prendre le peu de films qu'il y a eu pendant plusieurs décennies comme exemple, mais après tout ça, ce plafond de verre, ça peut rester un ressenti, mais il y a aussi les faits. Et en 2015, quand il y a eu le piratage des mails de Sony, donc où l'ancien boss de Marvel, Ike Perlmutter, s'adressait au boss de Sony et en gros prenait les quatre films de super-héroïne en exemple pour dire que de toute façon ça n'intéresse pas le public. La preuve, les quatre films ont été des bides et sont des bouses, et là pour le coup on peut pas lui donner tort, mais il y a quand même un petit peu cette mauvaise foi, étant donné que bah, les bides avec des super-héros, on n'en compte plus. Superman et Batman, ils se sont cassés les dents je ne sais pas combien de fois au cinéma, mais pourtant ils sont toujours revenus très forts. Green Lantern s'est cassé les dents, on ne s'est pas dit « Ouh là là, attention, il faut remettre en cause le modèle du film avec le super-héros mâle blanc ». Ça n'a jamais été fait, mais voilà, il y avait un peu cette idée que le film de super-héroïne, c'était pas quelque chose de rentable, c'était pas quelque chose qui allait intéresser les investisseurs et le public. Du coup, c'est quelque chose tout simplement sur lequel on pouvait faire une croix. Donc j'imagine aussi que c'est pour ça que Captain Marvel a mis autant de temps à arriver. D'ailleurs, Kevin Feige avait parlé de ça justement et du manque de diversité chez Marvel. Pourquoi on a mis aussi longtemps à avoir des femmes ou même un personnage noir avec Black Panther? Parce que il y avait un petit peu cette croyance qu'il y avait un seul modèle qui marchait et que c'est ce que le public voulait, alors que depuis on a vu que non.
Oui, je crois que c'est vraiment le même Perlmutter là qui ne voulait pas trop visiblement qu'il y ait un Black Panther et Captain Marvel, et c'est pour ça que ça a autant traîné jusqu'à ce qu'il soit dégagé, que Kevin Feige se retrouve vraiment à avoir plus de contrôle créatif et qu'il ait fait ses films. Et nos shit, Black Panther et Captain Marvel ont fait plus d'un milliard et ont explosé les records, donc c'est quand même assez drôle.
Mais c'est le même gars aussi qui voulait pas faire de jouets.
Exactement.
Oui, il y a un portrait dans Vanity Fair où du coup c'est pas la citation directe de Kevin Feige, mais il y a des citations de Kevin Feige et d'autres gens, donc a priori c'est à peu près renseigné, qui dit qu'en gros il pensait que pour lui il y avait moins de potentiel pour les jouets de femmes, donc il a vraiment fait en sorte qu'il y ait moins de jouets Black Widow.
Ouais.
Voilà, basé sur quoi, je ne sais pas, peut-être sur les jouets de Supergirl 30 ans avant, en disant bah oui, d'un film on va tirer une règle, c'est comme ça. Donc en fait il y a un vrai rejet dans le système, c'est pas une hallucination, c'est une réalité.
Donc tout ça, évidemment, on peut arriver au constat évident que les personnages de super-héroïnes qui sont parfois passionnants dans les comics sont en tout cas hyper sous-employés au cinéma. On a plein à citer, hein, je sais pas, il y a Poison Ivy, donc Batgirl, t'en parlais un peu avec le peu de temps qu'elle apparaît dans Batman, ouais. Et Robin, et puis il faut savoir comment.
Ouais, voilà. J'ai regardé sur YouTube pour voir des scènes avec elle, et t'as vraiment un montage qui dit toutes les scènes avec Batgirl, ça dure 5 minutes 22.
Ouais.
Voilà. Et c'est, du coup, c'est ridicule, et les premiers plans, tu vois son cul et ses nichons en gros plan, c'est pitoyable, quoi. Encore une fois, on dirait un sketch qu'on ferait aujourd'hui en se disant, regardez, quel est le pire qu'on pourrait faire avec un personnage féminin ou un personnage tout court quand t'essaies d'en faire quelque chose d'iconique, et du coup, c'est la réalité de ce film.
Ouais, parce que ouais, il y avait sa baston là qui dure 3 minutes contre Poison Ivy, où ça balance que des clichés sexistes à base de « oui, si les femmes, il y a des vilains mots pour parler de nous, c'est à cause de toi », enfin...
Bagarre pendant laquelle Poison Ivy se recoiffe dans le reflet de sa lame de couteau quand même avant de porter son coup, tu vois. Enfin bon, genre.
Parce que évidemment que si il fallait qu'il y ait un combat contre Poison Ivy, c'était une autre femme pour qu'il y ait vraiment un crépage de chignon.
C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment histoire de dire au public masculin, bon, entre les deux, laquelle vous préférez, quel est votre fantasme, choisissez, tu vois.
Ouais, voilà, ça fait un peu les meufs qui se battent dans la boue.
Ouais. Mais alors justement, du coup, puisqu'on parle là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en termes de représentation, parce que la preuve, quand elles apparaissent enfin à l'écran, bon bah c'est assez catastrophique. Et voilà. Donc oui, on a vraiment l'impression que leur apparence en soi, donc le costume, la manière dont elles sont castées aussi, bien sûr, parce qu'elles correspondent toutes à une certaine norme de morphologie, on va dire, elles sont vraiment pensées en tant que fantasme, enfin sujet de fantasme, en tout cas très hétéronormé, très masculin, et en fait en fonction du désir qu'elles peuvent susciter, quoi, ce qui est quand même vraiment malheureux.
Bah oui, surtout que en règle générale, quand on parle de ça, on peut nous opposer un peu l'argument que je trouve de mauvaise foi, qui est oui, mais les hommes aussi, dans les comics, ils se font ultra sexualisés avec des gros pecs, des gros bras et tout. Mais enfin, en général, c'est un peu l'argument qui m'énerve parce que justement, ce trop-plein de muscles, qui est aussi un idéal impossible à atteindre pour le corps masculin, mais il véhicule pas d'où. Tu n'auras jamais ces abdos-là, Geoffrey. Mais tout ça, en fait, c'est pour créer un idéal envers le public masculin, leur dire voilà, l'homme parfait, à quoi il ressemble, bah voilà, c'est un dieu de l'Olympe, tout ça, tout ça. La femme, le personnage féminin, le fait qu'elle ait des super gros seins, c'est pas un facteur de force, c'est pas pour quantifier sa force visuellement, c'est juste. Bah, tenez le public masculin, regardez, le personnage, il a des super gros seins et ça ne véhicule aucune force, aucune intelligence. Enfin, ça dit juste que le personnage a des gros seins parce que la nature l'a bien faite, enfin, les dessinateurs l'ont bien faite et voilà.
Oui, parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant et fascinant dans la manière dont la représentation des super-héros hyper musclés, qui sont toujours, quel que soit le mouvement qu'ils sont en train de faire, t'as l'impression que l'entièreté de leurs muscles est contractée tout le temps. Il y a cette espèce de célébration du corps toujours dans l'hyper-performance que je trouve intéressante. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est pas ce qu'on voit chez les super-héroïnes, elles sont musclées que un petit peu là où il faut. Enfin, on n'a pas du tout l'impression, comme tu le disais, d'une démonstration de force, quoi.
Puis... Ouais, si tu regardes Wonder Woman et Thor version Jane Foster, Natalie Portman, est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'elles sont spécialement musclées? Après, on peut nous dire, oui, mais Wonder Woman, c'est une déesse, elle n'a pas besoin de muscles, certes, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un exemple de super-héroïne qui aura besoin de muscles, peut-être? Parce que pourquoi, quand Mighty Thor prend son marteau, elle ne gagne pas plus que des tailles de bonnet, des muscles, tu vois, que ce soit un peu basique de clichés de comics?
Ouais, et puis cet argument-là de oui, telle personne n'a pas besoin de muscles parce que bah, Superman, il n'a pas besoin de muscles aussi à ce niveau-là. Oui. Thor, c'est un demi-dieu, enfin même un dieu, et non plus, il n'a pas besoin de muscles. Enfin, il y a tellement de personnages masculins dont en fait ils n'auraient pas besoin de muscles parce que leur écriture fait qu'ils ont cette force surpuissante, tout ça, tout ça. C'est ce qu'on oppose aux femmes, et quand tu vois le comparatif Supergirl et Superman. En général, il y a quand même un énorme fossé entre les deux, et la justification n'est pas toujours la même. Surtout qu'en plus, on voit des super-héros qui sont un peu moins musclés que la norme. Je pense par exemple à Doctor Strange ou à Ant-Man, qui n'est pas une montagne de muscles. Et pourtant, on les prend tout à fait au sérieux, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un petit peu la chose inverse avec des femmes.
Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit aussi, parce qu'on pourrait parler de la dérive de la représentation du corps masculin dans un film de super-héros qui est tout aussi ridicule pour des raisons très différentes. C'est que l'autre jour, on parlait de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie en disant Chris Pratt, quand même, on faisait comme tout le monde en disant quand même la carrière de ce monsieur, elle est incroyable. et où va-t-elle surtout? Il a aucune raison, Star-Lord, d'avoir des tablettes de chocolat dans Les Gardiens. Vu son caractère, son personnage, au contraire, il devrait avoir un peu de bide, boire de la bière et s'en foutre totalement. Et pourtant, Chris Pratt, qui était un mec à peu près normal, donc il avait du bide avant de faire ça, il y a des tablettes de chocolat de fou dans le film. Pourquoi? Pour répondre à cette attente. Et d'ailleurs, James Gunn lui-même voulait qu'il voulait pas qu'il soit gros, je fais des guillemets, comme dans Parks and Recreation. Donc c'est drôle, tu dis en fait, ces trucs sont de tous les côtés, plus personne ne sait pourquoi ils sont là. Juste, il faut que ça corresponde à une case d'être beau.
D'aller toujours plus loin, non, c'est absurde. Mais d'ailleurs, c'est fou, comme je trouve que le curseur s'est déplacé à une certaine époque, il y a encore quelques années, l'idéal d'homme musclé dans les films de super-héros, c'était pas les absurdités qu'on a atteint maintenant.
Je sais pas où ça va, mais quand tu vois le Man of Steel Superman d'Henry Cavill, alors je l'aime beaucoup, mais c'est quand même what the fuck, quoi. Tu te dis, mais comment tu fais pour être dans cet état, quoi?
Oui, tu
penses à l'acteur derrière, quoi.
Au bout d'un moment, ça atteint même un point où c'est absurde, où on te dit que voilà, Clark Kent, c'est censé être le gars un peu passe-partout, un peu avec ses lunettes, un peu maladroit, un peu voilà. Alors que non, ça reste une montagne de muscles.
Je dois être journaliste. Vous êtes sûr?
Mais alors justement, pour parler un peu d'exemples précis, parce que est-ce qu'on peut reparler un petit peu de la Catwoman de Halle Berry?
Non, mais c'est super intéressant parce que on peut tout le temps avoir le débat de Catwoman est un personnage qui est sexualisé, c'est une de ses armes, elle en a fait sa force parce qu'on l'empêchait de l'être, ou on la force à l'être. Enfin, il y a tout un tas de lectures qui sont intéressantes. Et quand tu regardes la Catwoman de Burton, évidemment qu'il y a une part de sexualité, elle en joue à fond, et il y a des scènes où elle est vraiment hyper proche du corps du pingouin de Batman, elle en joue beaucoup. Donc quelle est la différence avec la Catwoman de Pitoff, on va dire de Pitoff, de Warner Bros et de Halle Berry, la pauvre? C'est que c'est comme s'ils avaient dévitalisé, retiré tout ce que ça pouvait avoir comme sens, et se dire, les gens, ils aiment que Catwoman soit à poil fétiche cuir latex. Du coup, on en met moins, on la fout à poil. Et du coup, la promo a commencé par Halle Berry dans un shooting de merde où elle a son costume qui est ridicule. Et je pense que personne n'a pu se dire que c'était une bonne idée. En fait, j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu le faire. Bah, après, comme tout le reste du film, c'est complètement absurde. Mais c'est vrai que tu vois vraiment les deux facettes de la même pièce. Parce que dans le Batman de Burton, elle a un costume, on voit moins son corps et il y a beaucoup plus de sexualité.
Ouais.
Et dans celui réalisé par... Enfin, réalisé, je ne sais pas, où il y a le nom de Pitoff au générique, il y a beaucoup plus de chair et pourtant c'est ultra puritain. Il n'y a pas du tout ce texte, il n'y a rien. C'est hyper chaste.
Et oui, c'est ça, parce qu'il y a cette espèce de scène de parade nuptiale entre les deux, là où en fait ils jouent au basketball.
Basket. Oh,
voilà, c'est ça. Où ils jouent au basket et c'est ça le plus sensuel. Alors que tu vois les photos promo, elle est à moitié allongée sur le sol avec ses seins comme ça collés au sol. Tu comprends pas tellement. Et c'est aussi ce shooting là où il y avait la photo recto verso.
Oui, mais oui, c'est un album. C'est devant, t'as la couverture, derrière, t'as le nom des pistes du CD. Bah là, t'as les seins ou le cul de Halle Berry. Et c'était ça l'argument.
Oui, parce qu'en plus, les photos en elles-mêmes, elles avaient aucune personnalité par ailleurs, il n'y avait pas de direction artistique, c'était
vraiment
que ça.
Tu sais les trucs des essais costumes que tu ne montres pas, que tu fais dans un studio la première fois, et peut-être qu'ils se sont dit, oh putain elle est bonne, elle est Berry, c'est ça notre argument quoi, on va le partager, et ben voilà.
C'était vraiment ça, c'était vraiment genre voilà le produit, on aurait dit une pub pour poupée mannequin quoi, c'était vraiment dans la Catwoman de Tim Burton. Moi ce que je trouvais passionnant, ce que tu disais Geoffrey, le sous-texte un peu sur la sexualité et en quoi ça a du sens de la rendre aussi sensuelle et aussi sexy, c'est vraiment parce que c'est un personnage qui n'arrive pas à se... Alors même qu'elle pense reprendre sa liberté, elle n'arrive pas du tout à se défaire du prisme hyper patriarcal, hyper contraignant que la société appose sur elle, et que donc, même en essayant de se libérer, bah, elle retombe finalement dans quelque chose d'hyper sexy, parce que c'est là-dedans qu'elle est contrainte de s'inscrire, et je trouvais ça brillant, en fait, que son costume, si sexy soit-il, représente une esthétique hyper BDSM, parce qu'il y a vraiment une idée de souffrance qui se cache derrière.
Exactement,
quoi.
Parce que je pense à la scène où elle est avec Batman qui sont en train de danser et qu'elle tu sens qu'elle est déchirée intérieurement, en fait cette douleur et ce dilemme qu'elle a en elle qui l'a fait souffrir n'est jamais là à l'écran dans le film avec Halle Berry. En fait, c'est juste un gag, c'est juste léger. Donc, en fait, si tu retires ça, c'est juste en surface et c'est évidemment ridicule. Surtout quand tu rends le costume encore plus sexy en apparence. Et c'est cette couche de douleur et donc de dramaturgie qui donne une vie à Catwoman version Burton. C'est ça qui fait que le costume a du sens.
Oui.
Tu la vois le créer, tu la vois pleurer dessus, tu la vois tout déchirer et tu la vois mourir. Du coup, c'est beaucoup plus dramatique et tragique.
Ah ouais, non, mais enfin, c'est brillant.
C'est
pour
super.
Le coup. Ouais, ça, j'adore. Et sinon, autre exemple, enfin autre personnage auquel ça me fait un petit peu penser, c'est du coup Mystique dans les X-Men.
Mmh. Ouais, ça je trouve que c'est un exemple assez intéressant parce que quand tu regardes vraiment la version des premiers X-Men où elle est incarnée par Rebecca Romijn et les derniers où elle est incarnée par Jennifer Lawrence, tu vois vraiment comment tout le système, comment toute la gestion de ce personnage et donc des super-héros a changé. Parce qu'au début, t'avais une actrice méconnue, à la fin, t'as une star. Quand la star, Jennifer Lawrence, commence à monter, tu vois que Mystique devient vraiment un personnage de premier plan. Donc, il leur ajoute des couches d'écriture, de dilemmes vraiment très classiques. Du coup, elle devient moins sexualisée. Elle porte de plus en plus son costume. Tu vois beaucoup moins ses seins, sa peau. Tu la vois beaucoup plus parler. Donc, le maquillage aussi, il change. Il y a beaucoup moins de travail. C'est plus du genre une couche de bleu, si je dois faire grossier, plutôt que des écailles qui sont posées une à une et qui vont donner un cancer, sûrement à Rebecca Romijn, la pauvre. Et tu vois même le rapport qu'elle a dans les combats dans le premier X-Men, qui est un film que j'aime pas mal, le combat qu'elle a contre Wolverine, il est hyper intéressant parce que c'est un personnage que tu vois peu, elle est vraiment mystérieuse dans l'ombre, et quand elle se bat avec lui, elle est littéralement à poil, et elle est vraiment dans un jeu un peu comme une Catwoman, tu vois, elle est un peu perverse, tu vois, elle donne des coups très simples pendant que lui, c'est la brute qui arrive et tout, et elle arrive à s'en sortir, elle s'accroche, elle se retourne dans tous les sens, tu sais, un truc de jeu vraiment qui marche bien avec ce personnage-là, pourtant il est sexualisé, si tu regardes vraiment en surface, elle est à moitié à poil, mais j'ai pas souvenir que dans le film, on la monte dans des positions sexualisées. On montre juste que c'est une prédatrice, quoi.
Ça, et ensuite, dans les autres X-Men, c'est dans lesquels, déjà, où, justement, toute son origine et comment elle a rencontré Charles Xavier, et le fait de pourquoi elle est tout le temps à poil comme ça, c'est parce qu'elle veut vraiment embrasser son identité de mutante, qu'elle l'assume et qu'elle le porte fièrement. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai moins tendance à voir une femme à poil qu'une femme qui veut s'accepter et qui se dit, voilà, en fait, je suis badass, je suis comme ça, et vous allez strictement rien faire contre ça.
Pourtant, il y a un petit peu, évidemment, il y a un peu le côté de, genre, comme par hasard, il y a toujours une excuse, genre d'écriture ou quoi, pour que la meuf elle soit à poil et que voilà, et que ce soit soi-disant badass et tout, et que la meuf effectivement elle soit jamais un petit peu rondelette, un petit peu quoi que ce soit. Enfin, mais bref, toujours est-il qu'effectivement il y a quand même différentes manières de l'écrire et de le mettre en scène pour que ce soit un petit peu intéressant. Et c'est malheureusement pas toujours ce vers quoi on tend, quoi.
Parce qu'en termes de costume aussi, il y a un truc, je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand il y a eu les Amazones qu'on a montré version Wonder Woman et version Justice League, donc je sais pas, c'est Joss Whedon, Zack Snyder, on va dire Snyder, c'est bon, faites pas chier. il y avait vraiment la différence flagrante des costumes où tu voyais du côté Patty Jenkins de Wonder Woman, c'était des armures d'Amazon, et de l'autre, c'était des bikinis médiévales, quoi.
Donc, toutes vraiment... les zones vitales du corps sont exposées, donc c'est vraiment pas pratique d'aller à la guerre avec ça,
comme dans les jeux vidéo, vraiment. C'est le Street Fighter.
Genre, ça protège tes tétons et c'est tout.
C'est le plus important.
Et c'est vrai que c'est drôle parce que tu dis, après tout, c'est de la fantasy, on n'est pas là pour voir le degré de réalisme de la guerre, mais c'est amusant parce que d'un côté, t'as un film réalisé par une femme, la chef costumière, c'était une femme, et de l'autre, t'as un film réalisé par un ou deux hommes, en tout cas c'est deux mecs, avec un chef costumier masculin. Et peu importe la raison, peu importe qui on voudrait blâmer, c'est juste très drôle de mettre les deux en parallèle. Les films sont sortis à 2 ans d'écart, tu vois, c'est vraiment dans le même moule, quoi.
Ouais.
Bah, même si en plus aujourd'hui Wonder Woman, elle est quand même grave affiliée à Patty Jenkins, mais faut pas oublier que c'est pas elle qui l'a castée.
Oui,
et je me demande vraiment si c'était Patty Jenkins et ses équipes qui avaient cherché une actrice pour jouer Wonder Woman. Est-ce que ce serait Gal Gadot? Je ne pense pas, personnellement.
Bah, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que l'autre prétendante, c'était Olga Kurylenko. Qui franchement est faite dans le même moule que Gal Gadot, peut-être qu'elle est juste actrice, elle. Mais
Alors moi, je me rappelle à l'époque, vraiment, j'étais hypée à l'idée de voir une meuf. Enfin, je m'attendais vraiment à voir une Wonder Woman qui était une vraie Amazon, tu vois, genre vraiment musclée. Là, je m'étais dit, putain, la meuf, elle va tout défoncer et tout. Puis on s'est retrouvés avec une mannequin taille zéro, là. Bon.
Mais ça aussi, c'est ça qui est fou, c'est qu'au-delà de. Elles sont sexualisées, on montre leur forme et tout, je trouve que justement, tu dis mannequin dans plein de films. Tu vois, par exemple, si je pense à Au hasard Elektra, réalisé par Rob Bowman avec Jennifer Garner. J'ai pas souvenir, je l'ai pas vu depuis longtemps, et s'il vous plaît, ne me faites pas le revoir, mais elle est pas spécialement filmée comme un objet sexuel, mais par contre, elle est filmée comme une poupée. J'ai souvenir d'elle dans les scènes d'action de merde à la fin, où vraiment on te montre à quel point elle a du gloss, que ça brille. Alors du coup, il y a une forme de sexualité là-dedans, mais c'est vraiment, elle est mannequin. Elle a des cheveux parfaitement coiffés qui lui vont dans les gueules, alors que tu dis quand tu te bats, c'est quand même pas très pratique, il me semble, même si j'ai jamais eu de cheveux longs. Et donc, t'as le rapport vraiment à, c'est une poupée, c'est du papier glace, c'est un truc faux, et du coup, tu vas jamais la voir un peu amochée, un peu décoiffée. Et j'ai eu la même sensation devant Black Widow, où je me suis dit pendant tout le film, mais putain, mais ces perruques de merde, pourquoi elles sont tout le temps si bien coiffées, même dans les combats les plus épiques, quoi.
C'est terrible, c'est vraiment la page de pub dans un magazine, elle, quoi. Enfin,
alors que tu vois, les beaux gosses du MCU ou de DC, enfin, Henry Cavill, Chris Evans et tout ça, il y a plein de moments où ils ont de la sueur.
Oui.
Et en fait, ça devient des atouts masculins parce que du coup, t'es musclé, t'es poilu, t'as des muscles, du coup, t'as de la sueur, t'as de la terre. Bah, du coup, c'est sexy.
Oui, c'est
mais
ça.
Du coup, côté femme, c'est oh, j'ai une petite cicatrice, mais par contre, ma mèche, elle est encore bien.
C'est terrible. Et bah, alors, le pire, peut-être, enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais ce qui est ouf, c'est la transformation, enfin, l'évolution, par exemple, de la représentation d'Harley Quinn, enfin, notamment au début, dans le premier Suicide Squad, pardon.
Non, mais surtout.
Je ne pas le dire tellement
souvent. Non, jamais, j'y arriverai pas.
Mais surtout quand on connaît l'origine du personnage, qu'on l'a vu pour la première fois dans la série animée de Bruce Timm en 92, et où c'était véritablement le spectre des violences conjugales et véritablement un personnage à vocation féministe, à l'époque où on collait pas encore l'étiquette à chaque fois qu'on avait un personnage féminin.
C'était avant que le woke existe.
Et justement, elle était dans sa tenue d'Arlequin, donc vraiment une tenue qui n'était pas sexualisée, même si bon, bah, tu voyais ses formes, mais bon, au bout d'un moment, on va pas non plus cacher les formes des femmes, mais elle n'était pas du tout là pour être sexualisée, et quand elle se sexualise, bon, c'est pas encore sexualisé parce qu'on restait encore dans une série pour enfants, mais où elle va mettre d'autres tenues et tout ça, c'est elle le fait pour elle, et ensuite, le personnage a été récupéré et c'est devenu une sorte de d'étendard à fantasme ultra chelou où le but était de la faire toujours plus vulgaire, sans aucune logique derrière d'émancipation sexuelle ou quoi, ou alors c'était la carte brandie comme ça, comme joker. T'as anticipé ma blague.
Non, je me suis dit c'est drôle. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est devenu plus un costume de Halloween et une photo pour Instagram qu'un personnage. Après, ça s'est dilué, je ne sais pas qui l'a fait en premier, mais quand tu vois la version de David Ayer de 2016, tu vois à quel point, en fait, tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir croisé ce genre de personnes sur Instagram dans mon fil d'actu. C'est vraiment les trucs.
Ouais.
T'es super bien foutu, t'as un mini shirt, t'es bien coiffé et t'as une voix de poupée Barbie porno, quoi. C'est
un peu, le scénario fait tout pour te hurler à la gueule que ce personnage est une bonasse. Regardez, par ses attitudes qui sont même plus des attitudes un peu enfantines, un peu puériles ou même juste imprévisibles qui passent d'un état à un autre. Là, c'est vraiment le personnage qui va tout le temps mettre le cul en arrière et puis la caméra est bien complaisante avec ça. Hein,
le moment où elle se penche dans la vitrine pour récupérer son mini-shirt, c'est vraiment, mais comment Margot Robbie a pu se dire, j'imagine qu'elle a une justification pour le personnage en disant que ça fait partie de la psyché ou je ne sais pas quoi, mais quand tu vois le film fait par un mec avec que des mecs autour, avec un public majoritairement masculin, en tout cas dans l'idéal du studio, tu te dis, mais c'est vraiment genre, on fout une meuf, on la jette en pâture au mec, quoi, et on montre régulièrement à intervalles pour que le sang il puisse aller du cerveau à ailleurs, on montre son cul, quoi.
Non, mais en plus, la scène en elle-même, elle était intéressante parce que le fait de péter un truc dans une vitrine pour récupérer un truc qui lui plaît, c'est technique. oui, c'est un move à la Harley Quinn, c'est totalement dans sa personnalité, et c'est juste qu'on fait la caméra qui rend le moment totalement dégueulasse, un peu comme ce moment étalage de viande où elle est en train de se changer avec tous les membres de la Suicide Squad autour. Il y a la petite musique, il y a vraiment, on commence à filmer de ses pieds à sa tête avec elle qui se dandine comme ça, et puis d'un coup elle remarque que tous les garçons la regardent parce que franchement, bah ouais, elle est trop bandante. Oh mon dieu.
Ouais, voilà. Là, t'as vraiment l'impression que la caméra se met du côté de tous les mecs dont le regard va baver sur elle.
Ça dit, allez-y.
Et ça s'étire. Et vraiment, mais cette scène ne raconte pas grand-chose et il n'y a aucun autre... Je sais pas, il n'y a pas un degré d'intelligence là-dessus. Tu sens qu'il n'y a pas un regard qui pourrait être amusant, qui pourrait faire partie d'un truc pop là-dessus, parce qu'elle n'a pas grand-chose à faire à part être amoureux du Joker, être poursuivie et courir dans tous les sens, et faire « Ah non, non, moi !» comme ça, comme Bugs Bunny. Donc c'est pas très intéressant.
Mais d'ailleurs, il n'y avait pas un truc en rapport à son short. Il n'y avait pas genre un truc, c'était pas millimétré...
Le short gate.
Le short gate. Mais j'ai pas réussi à retrouver la réalité. Moi, je sais que j'avais vu que... Il y avait une rumeur sur est-ce que son short a été raccourci ou rallongé par ordinateur après, parce qu'il était soit trop long, soit trop court. Apparemment, il était trop court dans les premières versions parce que c'était plus un short, c'était une mini-culotte. Et donc, quand tu compares les trailers, tu vois qu'il y a des moments quand elle part et que la caméra est derrière elle et que tu vois donc son cul partir au milieu des mecs, son short est vraiment très court, et dans d'autres trailers, c'est le même plan, le short est plus long. Et Margot Robbie a dit « Ah ben non, je sais pas, bah, je trouvais ça bizarre qu'il le fasse. C'est vrai que le short était court, mais franchement, s'ils ont fait ça, bah, ça l'argent jeté par les fenêtres. » Et donc, on c'est pas réellement. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, le sujet de conversation de Suicide Squad en 2016 était le cul et ce qui recouvrait le cul de Margot Robbie.
Mais en plus, c'est d'une hypocrisie incroyable, parce que c'est un peu ce qu'on disait. Au bout d'un moment, que le short il fasse 1 ou 2 centimètres en plus, c'est quand même la manière dont tu filmes et dont tu écris ton personnage qui va faire que c'est n'importe quoi.
C'est pas le problème ni la qualité.
Voilà, et encore une fois, l'idée, c'est absolument pas de vouloir un cinéma puritain et de plus jamais avoir de personnage sexy féminin à l'écran. C'est pas ça. C'est encore une fois, c'est la différence de traitement entre les femmes. Et les hommes, quoi, qui est vraiment, enfin bref.
Ce que tu dis, Judith, c'est tellement vrai, parce que ensuite, quand elle est réapparue dans Birds of Prey, donc le film de Cathy Yan, elle a des tenues qui restent super légères, elle est en mini-short, avec des vestes transparentes et tout, et pourtant, elle est tellement moins sexualisée que dans le film de David Ayer. Dans le film de James Gunn, elle a carrément une scène où elle couche avec un personnage masculin, où en plus, là c'est cool parce qu'on parle vraiment de son désir, du désir féminin, et c'est les trucs en général qui sont un peu occultés dans les productions de super-héros mainstream. Et c'est fait avec tellement plus de respect et l'œil de la caméra beaucoup moins gras que juste la filmer en train de se changer ou récupérer un sac à main dans Suicide Squad.
Bah ouais, en fait, moi je me dis juste que dans ces deux films-là, ça ressemble peu importe ce qu'on pense des films, mais elle ressemble juste à un personnage, elle a un peu plus de trucs à faire. Et tu pourrais dire dans Birds of Prey, c'est facile puisque c'est son film, mais dans The Suicide Squad, c'est pas du tout son film. Il y a 1000 personnages autour et il réussit quand même à faire un truc intéressant, amusant. Et le personnage reste toujours aussi timbré, aussi déluré et tout. Donc c'est pas comme s'il l'avait ratiboisé pour que ce soit un truc un peu plus gentil, un peu plus doux, comme tu dis. Non, donc c'est marrant, c'est vraiment la question de regard. Tu vois, dans les petits détails de regard aussi qui sont intéressants quand on parle des femmes, des super-héroïnes, c'est que dans Birds of Prey, il y a ce truc dont plein de gens parlaient, du chouchou là, c'est drôle. Parce qu'on n'arrête pas de parler. Moi, je suis les perruques des meufs dans les films américains, ça me tue. Je ne comprends pas comment les femmes sont coiffées comme ça. Je me dis pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui arrive en disant, mais tu sais, t'arrives et tu chamboules les cheveux sur la tête de quelqu'un pour que ce soit un peu réaliste. Et dans Birds of Prey, pour se battre, elle se passe un chouchou. Donc c'est un petit détail, mais c'est amusant de te dire, oui, en fait, Wonder Woman, comment elle peut se battre avec ses putains de cheveux tout le temps devant elle, quoi. Il n'y a pas un moment où tu te dis, ok, c'est une déesse, mais les autres qui sont pas des déesses, genre Black Widow, c'est une femme normale a priori.
Mais ça, c'est un truc de l'industrie, hein, parce que petite parenthèse rapide, mais dans Red Notice, donc le film d'espionnage Netflix là avec. C'est pas un truc d'espionnage, mais bon, bref, le film pas ouf avec Gal Gadot. Il y a un moment où elle doit se péter contre les deux personnages principaux. Elle a les cheveux attachés. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle détache ses cheveux avant de se battre. Pendant cette scène, j'ai hurlé devant mon écran en mode ce n'est pas logique.
Non, mais c'est le côté gravure de mode publicitaire, quoi. Ouais. C'est vraiment un moment, tu prends une pause et tu fais la posture comme les mecs, sauf que les meufs, ça passe par un truc. Tu dis, mais quand même, il peut pas y avoir au moins une exception de temps en temps pour que du coup, il y ait un peu tout, un peu pour tous les goûts.
Supergirl, à chaque fois, genre, très très souvent, elle est représentée avec les cheveux longs quand elle vole. Et je peux pas m'empêcher de me dire, mais elle prend un courant sens inverse, à quoi elle se prend un immeuble parce qu'elle voit plus rien, quoi.
Tu la trouves indestructible avec la cape, tu te dis, mais il y a un moment, c'est dans le monde.
Mais du gel, enfin.
Mais du coup, comme on disait ces dernières années, il y a quand même beaucoup de nouvelles propositions en termes de représentation de super-héroïnes au cinéma, et du coup, j'ai l'impression que tout le monde part du principe qu'il y a un progrès, qu'il y a vraiment un progrès. Enfin, je pense qu'on peut, parce que en fait, on part d'une situation où t'as quand même des personnages qui ont prouvé qu'ils avaient un vrai intérêt et qui pouvaient susciter un engouement du public. Alors, la Catwoman de Tim Burton, ça s'est pas fait, mais à une époque, elle devait avoir son propre film. C'était tellement évident parce qu'elle était passionnante et que l'interprétation de Michelle Pfeiffer était géniale.
Bah ouais, à l'époque, Tim Burton et Pfeiffer, c'était vraiment c'était parfait quoi, de les reprendre, après le succès du deuxième. Après, je pense que c'est le côté industriel de Batman. Ils se sont dit, il faut faire des Happy Meal. Je ne mens pas, il faut faire des Happy Meal. Donc, on arrête de faire le Batman de Burton. Il faut qu'il soit rose, il faut qu'il soit cool et il faut qu'il soit en plastique. Donc, il a été un peu victime de ce qui
de
se passe
McDo.
À l'époque. Ouais, de McDo, clairement. Mais c'est vrai qu'il y a moi, je trouve que Catwoman, c'est assez dingue qu'aujourd'hui. Alors, elle, certes, j'ai failli encore oublier qu'elle a eu son film avec Halle Berry, qui a mis des années à se faire. Vraiment, en fait, une fois que le projet avec Burton et Pfeiffer ne s'est pas fait et qui pourtant s'est étalé pendant des années de peut-être attente, on ne sait jamais, et puis finalement, voilà, le monde a tourné. Et ils ont essayé de faire un film Catwoman pendant très longtemps. Nicole Kidman, Ashley Judd ont failli. Enfin, le rôle a été un peu passé entre toutes les mains, en tout cas en théorie, de toutes les actrices de l'époque, jusqu'à le film réalisé par Pitoff qui a été un méga bide. Et après ça, je trouve ça assez étonnant qu'elle soit revenue par la petite porte chez. Enfin, la petite grande porte de Christopher Nolan dans Dark Knight Rises. Il n'y a jamais eu vraiment de projet d'en faire une série, mais tu peux te dire, bon, la limite. Le film, l'univers de Nolan s'est terminé. Elle, à l'époque, Anna Tawai avait dit, moi, je pourrais revenir carrément avec Christopher Nolan. Autant vous dire que ça ne s'est pas fait. Mais par contre, je comprends pas actuellement pourquoi il n'y a pas un projet Catwoman. Ouais. Matt Reeves l'a ramené au premier plan de The Batman, quand même. Et le putain de pingouin a une série avant Zoé Kravitz en Catwoman. Mais ça, pour moi, je ne comprends pas du tout. Catwoman, c'est une mine d'or. Et si tu veux pas en faire un film, t'en fais une série. T'as HBO Max, qui est devenu HBO Max ou je ne sais pas quoi. Une série, quoi. C'est un boulevard, je n'arrive pas à comprendre ça.
Bah, c'est comme, comme on disait juste avant, Wonder Woman qui est passé par sa série dans les années 70, puis des projets de scénario dont un qui avait été confié à Joss Whedon, si je dis pas de conneries, mais qui est justement, il avait été révélé il y a quelques années, et il avait fait parler parce qu'il y avait quand même pas mal de biais sexistes dedans, notamment toutes les descriptions physiques de Diana qui insiste vraiment sur sa beauté, le fait que c'est vraiment une déesse rien qu'en la voyant et tout ça. Et un autre projet aussi qui a mis du temps à arriver, mine de rien, c'est Birds of Prey, parce qu'il y avait une série Les Anges de la Nuit.
T'as fait un article sur ce truc de merde.
écrite par Lita Calogridis. Donc, pour l'époque, en vrai, c'était quand même assez encourageant, parce que c'était une série sur un casting de super-héroïne, écrite par une femme. Donc, on se disait, allez, vas-y, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Sauf que ça a été annulé au bout de 13 épisodes, parce que manque d'audience et tout ça. Et du coup, il a fallu attendre 2020. Ouais, c'est ça, 2020, que débarque le film en salle.
Ah, tu oublies une autre chose, c'est qu'en 2011, ils ont essayé de faire une série Wonder Woman, qui je crois a été créée par David E. Kelly, qui avait fait Ally McBeal, et avec Adrienne Palicki, c'est comme ça, je crois, Adrienne Palicki, ouais, qui jouait Wonder Woman. Et en fait, c'est un projet assez dingue parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de couverture médiatique quand le projet a été annoncé. Il y a eu des photos de tournage où tu la voyais dans la rue courir. Elle a une tenue vraiment qui ressemble à un morceau de plastoc déformé, qui ressemble vraiment, voilà, c'est un peu méchant à dire parce qu'il y a des cosplays qui sont géniaux, mais là, c'est un mauvais cosplay, c'est du plastoc vraiment qui brille, qui est dégueulasse. Et c'était, comment s'appelle Elizabeth Hurley, celle qui jouait dans Endiablé, là, qui est un peu le sexe symbole de l'époque, qui jouait la grande méchante. Et le pilote a été tourné et ils n'ont jamais reconduit après pour faire une série. Et le pilote, par contre, est dispo en ligne et c'est... C'est ridicule parce que vraiment, gros, c'est une comédie. En fait, c'est She-Hulk avant l'heure. C'est l'histoire d'une meuf qui est une super héroïne, qui a un travail vraiment glorieux parce que elle, du coup, Diana Prince, c'est la boss, la CEO d'une grande entreprise. Et son identité secrète de Wonder Woman est évidemment secrète. Mais quand elle rentre le soir, elle est dans son bel appartement, elle a de l'argent, mais elle est seule, elle est célibataire et elle a un chat et elle a un micro-ondes. En fait, c'est ça. Et du coup, c'est le duel.
Le bonheur de Déborah.
Déborah, elle s'est étouffée, quoi. Non mais du coup c'est assez drôle parce que c'est vraiment ce qu'a essayé de faire Marvel avec She-Hulk et donc cette série n'a pas eu lieu parce que encore une fois tu dis mais ils savaient pas quoi faire dans Wonder Woman, mais depuis les années 90 tout le monde se disait mais qu'est-ce qu'on peut faire dans Wonder Woman parce que quand même elle était connue avec Linda Carter dans les années 70.
Un personnage aussi puissant qui peut rivaliser en force avec quasiment tous les héros de l'univers d'ici, voilà, c'est une célibataire avec son chat qui mange des petits plats micro-ondes. Puis non, même Wonder Woman, voilà, genre on se moque, mais quand même le film a changé énormément de choses. Déjà parce que voilà, premier blockbuster de super-héroïne, donc avec un budget équivalent au film de super-héros masculin, une femme à la tête, et surtout, ça a été un succès au box-office, et c'est vraiment pas négligeable parce que ça a commencé vraiment à briser ce plafond de verre. Et en plus, par rapport à Batman versus Superman, au box-office, il s'est mieux tenu, non ?
Ouais, alors ça, c'est assez intéressant parce que en fait, il a commencé moins fort au box-office domestique et donc le box-office Amérique et États-Unis et Canada, qui est donc très important parce que les studios récupèrent le plus de thunes là-dessus. Il a commencé moins bien que Batman versus Superman, donc un peu ce que tout le monde attendait, mais il a rapporté plus au final, preuve qu'en fait, le bouche-à-oreille a fonctionné alors qu'il a un peu joué contre Batman versus Superman, et au final, Wonder Woman a fait plus de thunes au box-office domestique que Batman versus Superman. Ça, c'est hyper intéressant parce parce que tu vois qu'en fait c'est pas du tout une manœuvre des médias, c'est pas du tout le je ne sais pas quelle machine marketing qui a fait que les gens se sont rués sur le film au moment où il est sorti. Ils y sont allés juste un peu moins que Batman vs Superman. Par contre, le film a extrêmement plu. C'est pas la critique, c'est pas les médias, c'est les gens qui ont bien aimé le film et qui y sont allés et qui ont fait qu'il a plus tenu.
Puis même, en plus, c'est devenu vraiment un objet d'étude par la suite sur le female gaze, donc en opposition au male gaze. On a pris vraiment ce film au sérieux. On s'est dit, bah voilà, ça, c'est un film qui va faire date. Nous, on en pense ce qu'on en pense dans la rédac. Hein. Perso, je vais pas me remater le film, c'est pas mon film doudou, mais je lui reconnais vraiment quelques qualités, notamment sur le regard féminin qu'il a. Et en plus, bah voilà, c'est un peu le film qui, à un moment, a sauvé le DCU, si on peut dire ça comme ça, genre juste avant Aquaman et tout ça. Donc se dire qu'au final, c'est le film de super-héroïne, celui sur lequel on misait pas un copec avant, qui a un petit peu redressé financièrement l'univers, il y a quand même quelque chose d'assez doucement ironique.
Non, puis ça prouve que en fait, ces films-là sont capables aussi d'attirer du public, que le public est capable d'avoir oui. envie de voir des films de super-héroïne, et que les producteurs devraient parfois un petit peu ouvrir...
C'est ça, en fait, c'est comme si ce film, l'hallucination avait prouvé que les gens allaient voir des films et pas des corps masculins ou féminins.
Oui,
en fait, si c'est de la merde, les gens n'iront pas, peu importe si ça s'appelle Captain Marvel ou Green Lantern. Et ce film, d'un seul coup, c'est un peu la preuve que peu importe, alors moi je suis un peu comme Déborah, je trouve pas que c'est un très grand film, d'ailleurs on a fait un débat dessus pour dire à quel point il y a des défauts, mais globalement le travail est bien fait, il y a du savoir-faire, il y a une envie, il y a une ambition et ça ressemble à un film quoi.
Oui, donc, en tout cas c'est clairement pas pire que ce qu'ils nous ont pondu par ailleurs dans le DCU ou le MCU quoi. Donc,
oh non.
Maintenant
tu vois, c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'au-delà de ce qu'on pense des super-héroïnes, c'est peut-être un des meilleurs films de super-héroïnes qui a été fait, et pour autant... J'ai pas du tout envie de leur mater comme Déborah.
Ouais.
Enfin, tu vois, c'est quand même pas du tout une grande qualité d'être un des moins mauvais, quoi.
Oui, ouais, ouais.
Voilà, mais on reconnaît volontiers la valeur qu'il a dans le paysage cinématographique et tout ce qu'il a débloqué.
Voilà, c'est ça. En plus, c'est qu'en fait, symboliquement, il y a un truc énorme. Le fait que, comme tu disais, ce soit une femme qui l'a réalisé. Patty Jenkins, elle devait faire Thor 2. Elle était engagée sur le truc. Elle s'est dit, je veux pas le faire parce que le scénario, c'est de la merde. Et aussi parce que vraiment, elle avait évidemment conscience que c'était une des premières femmes qui allait faire un film de super-héros et un film avec beaucoup d'argent. En fait, les femmes qui ont fait des blockbusters, des films à plus de 100 millions à Hollywood, tu peux les compter sur le doigt d'une demi-main, tellement il y en a peu. Et donc, il y a un truc symbolique. Elle se retrouvait à devoir porter la responsabilité d'un truc qui allait peut-être atomiser une porte qui était en train d'être ouverte. Et alors que si c'était un mec, tout le monde s'en foutait. D'ailleurs, c'était qui ? C'était Alan Taylor qui a continué sa carrière à peu près depuis. C'est après qu'il a fait Terminator Genesis, non ? Avant, je sais plus, c'était le même marasme d'horreur, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment tué quoi que ce soit, alors que Patty Jenkins, elle savait que du coup, il y avait un truc sur ses épaules. Donc, heureusement, après, Wonder Woman a marché.
Et pour revenir un instant sur Harley Quinn, elle aussi, elle fait partie du coup des personnages qui, bon, après avoir dépassé heureusement sa représentation dans le premier Suicide Squad, j'ai réussi à le dire, où maintenant on voit qu'elle est devenue vraiment le porte-étendard des villains chez le DCU, surtout qu'en plus, voilà, le Joker de Jared Leto s'est fait une certaine réputation, enfin voilà. Et donc maintenant, on a vraiment l'impression que c'est vraiment Harley Quinn qui est devenue la figure centrale des méchants, et du coup, c'est pas étonnant que maintenant elle soit même reprise, soit qu'elle viennent, pas Margot Robbie, mais Lady Gaga en Harley Quinn dans le Joker 2 qu'on attend, enfin Folie à 2 qu'on attend à la suite du film avec Joaquin Phoenix.
Ouais, c'est ça, c'est qu'au final, il y a des personnages féminins qui ont réussi à devenir des arguments promotionnels. Je pense typiquement à Natalie Portman dans Thor 4, qui était énormément mise en avant durant la promotion, en sachant qu'en plus, c'était pas forcément Jane Foster, un personnage qui était très apprécié, ou enfin, en fait, il était tellement anecdotique.
Ouais, c'est ça, genre, tout le monde s'en foutait complètement, elle avait disparu.
Voilà. Et là, au final, on la met vraiment au centre de la promotion, on la met techniquement sur un pied d'égalité avec Thor, donc il y a vraiment le fait que ce qui avant était un peu un objet de rebut, on laisse au fond, en tout petit, sur l'affiche, là maintenant, il y a le fait d'assumer. Alors, d'un côté, il y a véritablement les ambitions artistiques et tout ça, et de l'autre, il y a aussi un petit peu l'argument marketing qui joue sur le féminisme aussi, qui est un peu la brèche facile.
Mais c'est ça, je pense aussi, le souci à ce moment-là, c'est que en fait, t'es obligé de mettre dans l'équation à quel point il y a un truc à raconter au-delà de juste argument promo de « on est féministe, on est progressiste, on est tout ce que tu veux ». En fait, bah, c'est aussi un argument pour les gens qui sont contre ce qu'ils appellent on va dire le wokisme ou je ne sais pas quoi, parce qu'en faisant des films un peu de merde, genre Thor 4 avec une super-héroïne, bah, en fait, ça peut que te donner une preuve que bah, en fait, c'est des personnages de merde, ils ne savent pas quoi en faire, ils ne savent pas les filmer, ils ne savent pas les écrire, et peut-être qu'en fait, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, je trouve que dans The Flash, la manière dont Supergirl est traitée, c'est quasiment ça. Bon, on ne va pas rouvrir le sujet, mais c'est quasiment, tu as l'impression qu'ils veulent auto-détruire le truc en direct, tellement ils font ça par-dessus la jambe.
Et du coup, au moins, ce qu'on observe, c'est que avec cet intérêt, on va dire, que commencent à gagner les personnages féminins et le fait que bah, les studios se disent « bon, bah, peut-être qu'on peut commencer à miser dessus », il y a quand même plus de films, enfin d'œuvres consacrées, en tout cas, qui ont tourné autour d'elles ces derniers temps. Donc effectivement, évidemment, on parlait de Wonder Woman, mais bah, Captain Marvel aussi, du coup,
oui.
qui a fini par avoir son film.
Ouais. Et Wanda aussi, Wanda, je trouve un personnage intéressant, oui. je trouve que l'évolution qu'elle a, elle est quand même passée de Avengers 2, où elle était du coup une demi-antagoniste, parce qu'il y en avait plusieurs, à une sorte de semi-Avengers en puissance, parce qu'elle était dans la bande, amoureuse de Vision, mais du coup quand même en arrière-plan, pour finalement prendre de plus en plus d'importance avec des scènes un peu intéressantes, parce que bah, elle est surpuissante, pour ensuite avoir sa série WandaVision, qui a été la première série de Disney+, grâce à la pandémie, puisque ça devait pas être la première, et ensuite, elle est devenue l'antagoniste principale de Doctor Strange 2.
Mm.
Et c'est intéressant comme cours, parce que c'est peut-être un des personnages féminins les plus intéressants, parce qu'elle a eu le plus de choses à vivre. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui critiquent le fait que, du coup, elle soit quand même beaucoup réduite à une histoire d'amour et son rôle de mère, puisque, littéralement, elle veut foutre en l'air les galaxies et les univers pour retrouver ses potentiels gosses. Mais en même temps, bah, c'est une ficelle dramaturgique comme plein d'autres, et je trouve qu'au moins, elle a des choses à vivre, elle a des choses à faire, et elle est ni noire ni blanche, elle a eu beaucoup de nuances, et en plus, Elizabeth Olsen, c'est une bonne actrice, je trouve que pour le coup, dans l'MCU, c'est une de celles qui s'en sort le mieux, parce qu'elle a eu les meilleurs scénarios, notamment dans WandaVision, qui est une série hyper intéressante.
Mm. Puis même, au final, si elle n'a pas son film solo, et qu'elle n'aura probablement pas son film solo, moi, je trouvais qu'elle avait carrément piraté Doctor Strange 2,
ouais, ouais.
où c'était plus son histoire, au final, et la suite de WandaVision, que la suite de Doctor Strange et l'histoire de Stephen Strange.
Ouais.
Et il y a un truc aussi qui était intéressant, c'est au départ, on sentait bien qu'ils savaient pas trop comment gérer les pouvoirs de Wanda, c'est-à-dire que bon, on t'expliquait un petit peu comment ça fonctionnait, on te laissait sous-entendre qu'elle pouvait être très très puissante sans véritablement l'assumer, et de plus en plus, ils se sont dit bon, en fait, on a un personnage surpuissant, bah laissons-la être surpuissante, et c'est dans Endgame qu'il y a cette scène où elle débarque justement au Wakanda sur le champ.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bataille.
Non, c'est Infinity War.
C'est Infinity War, voilà. Elle débarque sur le champ de bataille, elle pulvérise tout, et t'as le personnage d'Okoye qui dit « Mais elle est si forte, mais pourquoi elle se bat pas
qu'est-ce
avec
qu'elle
nous ?»
Qu'est-ce qu'elle foutait en haut dans
voilà.
la tour
Pourquoi elle se bat pas avec nous depuis le début, elle
Oui, et dans Endgame, elle est à deux doigts de foutre Thanos KO aussi. Donc c'est vrai que pour le coup, ils ont pas peur de vraiment évoquer régulièrement qu'elle est très puissante. Elle est juste fragile parce que elle est au début de sa carrière de puissante. Mais je trouve que c'est plutôt bien foutu, effectivement, visuellement. C'est assez satisfaisant de voir qu'elle peut foutre la racle à tout le monde.
Puis c'est clairement pour moi le personnage... un des personnages ou le personnage le plus tragique
ouais.
de tout le MCU. Quand tu fais tout le retour de son histoire, elle a vu ses parents mourir sous ses yeux, son frère jumeau mourir sous ses yeux, elle a dû tuer son gars pour pas qu'il se fasse tuer. Au final, il a été ressuscité par Thanos, puis il a été retué sous ses yeux, puis ensuite elle a eu des enfants qu'elle a perdus. Enfin,
tu m'étonnes qu'elle ait foutu le
voilà.
bordel. Quoi.
Psychologiquement, ce personnage ouais. ne peut pas être
stable. Mais parce que dans les comics, c'est un personnage passionnant aussi, donc
oui.
c'est vrai que même s'ils ont effleuré que la surface, au moins tu te dis bah il y a du matos et ils ont à peu près pas trop mal rendu justice.
Voilà, donc au final, oui, elle reste quand même énormément sur le love interest et l'aspect très maternel, mais... c'est pas des choses qui sont rédhibitoires, c'est juste parce que en général les personnages féminins sont vraiment réduits à ça qu'il y a cette lassitude, mais sinon les thèmes en eux-mêmes sont vraiment intéressants, et dans le cas de WandaVision, je les trouve, enfin Wanda dans la série WandaVision et puis dans les films, vraiment très bien traités.
Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comme les personnages féminins, ces derniers temps, en tout cas, ont été pas mal utilisés, même on a l'impression pour sauver des franchises qui coulaient, en fait, qui n'arrivaient pas à se renouveler avec leurs personnages masculins habituels et avec leur traitement habituel. Donc, comme tu le disais, Wonder Woman qui a un petit peu sauvé le DCU à une époque où, en tout cas, c'est l'impression qu'on avait. Mighty Thor aussi, vraiment, la promo de Thor 4 a beaucoup tourné autour de Natalie Portman et de sa présence. Mmh. En plus, c'était d'autant plus intéressant que on sait que Mighty Thor, elle a un run hyper intéressant dans les comics, hyper important. Donc là, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un super renouveau de ce côté-là et que ça allait renouveler la franchise. Bon, voilà.
En fait, je sais pas si c'est sauvé parce que Wonder Woman, par exemple, c'est un peu le hasard, la chance qui fait qu'ils avaient misé sur les gros chevaux de Batman versus Superman. Mmh. Et en fait, c'est elle qui, sur lesquels ils avaient mis pas mal de thunes quand même, mais qui finalement, effectivement, un peu sauvé l'image de marque, un peu comme Aquaman qui a fait le milliard, alors que je pense qu'ils auraient plutôt attendu que Batman versus Superman fasse le milliard. Donc oui. C'est un peu, tu sais, ceux que tu mets au deuxième rang, et en fait, c'est les très bons élèves, parce que en fait, tu misais pas dessus, et c'est eux qui ont explosé les scores. Mais c'est vrai que Wonder Woman, il y a un truc assez intéressant, c'est que depuis, dans les derniers films, Shazam et dans The Flash, elle est réapparue en guest dans ces films, et il me semble que littéralement elle vient sauver le cul des mecs. En fait, elle passe comme une potiche mannequin avec ses beaux cheveux, mais elle vient pour avec son lasso, avec ses bottes, et elle vient sauver les gens. Et elle passe avec son sourire et repart. Donc c'est amusant parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu ramenais le souvenir de putain, la superstar, là, celle qui a tout réussi. Ouais. Bon, à part Wonder Woman 1984, parce que ça aussi, c'est un sujet. Ouais. En fait, elle a fait son film solo qui a coché toutes les bonnes cases, et le deuxième film, qui, au-delà de la pandémie, donc il n'a pas eu la carrière commerciale qu'il aurait dû avoir, a été largement détesté par le monde, même si nous, on n'a pas détesté chez Écran. Enfin, en tout cas, je sais qu'à l'époque, on l'avait.
Beaucoup de choses à reprocher, mais oui, non, vraiment pas autant de haine que ce qu'on a pu lire dans d'autres critiques.
Ouais, pour moi, c'est un peu le fait du même bois que le premier. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que d'un seul coup, c'est comme si tout s'était écroulé avec un film. Encore une fois, tu te dis, putain, mais avec le premier Wonder Woman, ils ont fait un score de fou. Ils ont quand même récolté des lauriers à tous les niveaux. Donc, c'était quand même c'était une réussite. Et le deuxième, c'est genre pas le droit à l'erreur. Du coup, tout s'est cassé à la gueule. Et depuis, Patty Jenkins et Gal Gadot sont éjectés gentiment de l'univers. Tu dis, mais c'est ouf, quoi. Mais c'est, comment c'est possible, genre, sur un truc comme ça. Mais genre, si Aquaman 2 se plante, est-ce que Jason Momoa va être dégagé d'ici, tu vois? Très curieux.
Ouais, c'est vrai. Bah oui, mais alors, du coup, c'est vrai que ça pose un peu la question de, genre, à quel point est-ce qu'il y a une volonté de remettre les choses en question profondément, ou est-ce que c'est vraiment histoire de s'engouffrer dans un féminisme de façade hyper opportuniste, seulement marketing, finalement. Ouais. Parce que du coup, voilà, malgré tout, tous les points positifs et tous les points tous les aspects progressistes ou en tout cas de progrès qu'on a pu aborder, en vrai, quand on soulève un peu le voile, il y a plein de choses qui ne sont pas de réels progrès ou en tout cas qui se passent assez mal. Par exemple, on parlait il y a quelque temps là de la place des personnages féminins dans le scénario, leur importance dans l'histoire, etc. Est-ce que finalement, on a maintenu un petit peu un progrès à ce niveau-là, ou est-ce qu'on revient un petit peu aux enjeux de base? Parce que finalement, par exemple, effectivement, la Catwoman de Matt Reeves, c'était l'occasion aussi d'aller chercher des nouvelles choses avec le personnage de Catwoman, et on revient à des enjeux qui sont peut-être même encore moins importants que celles de chez Burton, quoi. Et c'est un peu pareil finalement pour Black Widow.
De toute façon, Black Widow, je trouve que... En fait, c'est vraiment comme si ça a prouvé ce personnage, tout ce qu'ils essayaient de faire, tout ce qu'ils avaient peur de faire. Quand tu essaies de voir l'évolution du personnage, déjà, repensons à son apparition dans Iron Man 2. C'était quand même le pire du pire. C'est franchement Batgirl dans Batman et Robin, et Black Widow dans Iron Man 2, c'est à peu près pareil, hein. Sauf que c'est pire Iron Man parce qu'elle a plus de place. Elle apparaît sur un ring, super belle, avec ses belles lèvres qui sont filmées comme dans un début de soft porno. Et après, t'as une scène où Iron Man, mais en fait qui représente le public masculin, va sur sa tablette, doit taper Scarlett Johansson à poil, et t'as des photos de Black Widow, mais Scarlett Johansson, en lingerie. Et du coup, il la mate avec Gwyneth Paltrow à côté, et on parle comme un bout de viande. Et tu sais, à quel moment c'est intéressant pour le personnage? Oui, dans les comics, elle utilise sa sexualité pour charmer, pour être Black Widow, mais à quel moment c'est intéressant de faire ça, de la montrer dans cette position pour la première fois où elle apparaît? Vraiment, tu la réduis à un corps. Et ce que je trouve assez dingue, c'est que c'est pas le personnage, c'est Scarlett Johansson que tu regardes. Mmh. Elle est dans une tenue, franchement, je sais pas si c'est peut-être une campagne de lingerie qu'elle a faite elle-même en tant qu'actrice, comme pour une pub de parfum, mais en tout cas, tu peux vraiment y croire, et ça joue sur ce trouble. Ça joue sur le trouble de, vraiment, les directeurs de casting se sont dit, qui on pourrait caster? Emily Blunt, elle est plus dispo. tape Scarlett Johansson dans Google, oh bah du coup, bah ouais, carrément. Ah ouais. Hein, et Scarlett Johansson sur le ring dans le film, c'est elle qui passe les essais en fait. Alors je vais peut-être un peu long, mais tu vois, t'as quand même cette impression un peu vertigineuse de mais qu'est-ce qu'ils ont casté, quel est le bout du viande qu'ils sont en train de filmer en fait.
Oui, parce qu'il la mate sur sa tablette, je crois qu'elle s'est même pas encore présentée à lui à ce moment-là, c'est à peine si on connaît son nom, quoi. Ouais, c'est vraiment sa tête de jeu.
Tout, ouais.
Et puis en plus, ça dessert tellement l'intention de la scène, puisque justement, juste après, elle te fait un truc super badass sur le ring où elle fout Happy par terre et où tu comprends que cette secrétaire, quand même, normalement.
Elle est crédible comme Superman, voilà. Journaliste. Ouais.
Mais fallait quand même s'assurer avant qu'elle était bonne, quoi.
Mais voilà, là où par exemple, dans Avengers, ils prennent un petit peu l'effet inverse où au début du film, justement, elle est attachée à une chaise dans une robe de soirée noire. Donc voilà, elle est très belle, très sexy et elle se fait un peu malmener par les personnages masculins qui veulent l'interroger jusqu'au moment où on comprend qu'en fait, depuis le début, c'est elle qui mène la danse et c'est elle qui mène l'interrogatoire. Et donc, sous le filtre gros sein et hypersexualisation, il y a vraiment un personnage qui est puissant, fort et intelligent. Mais bon, dans Iron Man 2, la subtilité, elle est totalement partie.
C'est ça que je trouve bien dans le premier Avengers, peu importe ce qu'on pense de Joss Whedon et tout le reste, c'est pas le sujet, mais tu sens qu'il y a un regard, ce qui nous manquait quand on parlait de Harley Quinn tout à l'heure, c'est le personnage est sexualisé, l'actrice est belle et considérée comme un sex symbole, tu peux prendre tout ça, tu peux l'utiliser et poser un regard là-dessus qui est intéressant, et c'est ce qu'arrive à faire Joss Whedon dans le premier, parce que justement, il te piège toi-même. Tu sens qu'il y a une sorte de malice et d'intelligence de deuxième degré de lecture. Et il y a des films où il n'y a pas ça, et donc ça devient juste, bah ouais, l'actrice, le personnage, tout s'entremêle, devient juste un bout de viande, et voilà, prends ça, bouffe et repart.
Mais ce qui est ouf, c'est que, tu vois, donc là, on voit à quel point les personnages féminins continuent à être malgré tout envisagés comme des fantasmes masculins, malgré la place qu'elles commencent à prendre à l'écran. Je pense notamment à des personnages comme She-Hulk et She-Venom, qu'on voit très très peu, She-Venom, mais c'est vraiment, ce que je trouve terriblement frustrant et pénible à se dire, c'est que elles sont vraiment envisagées comme des, comment dire, comme en fait des archétypes de fantasmes qui ne bougent absolument pas, simplement elles changent de couleur. C'est vraiment, pour varier un petit peu, voilà ton fantasme en vert et ton fantasme en noir, quoi. C'est vraiment, et du coup, ça me fait vraiment penser à la règle 34 dont on parle toujours sur internet. C'est vraiment la version porno, donc évidemment, il faut que ça passe par un corps féminin de tes comics préférés, quoi. Mmh. Mais c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ça se ressent complètement dans leur nom. C'est vraiment, c'est Hulk et Venom, mais version chi. Quoi, vraiment,
oui, de toute façon, ça vient des comics, ça, les personnages féminins qui sont en fait juste des dérivés très souvent des personnages masculins. Ce qui veut pas dire que fondamentalement ça les rend inintéressants, mais c'est bien la preuve qu'il y a peut-être un peu moins d'imagination sur leur conception. Et sur She-Hulk, pour le coup, j'ai pas lu les comics She-Hulk et tout, hein. De base, le personnage, je m'en foutais un peu, mais quand il y a eu l'annonce d'une série She-Hulk, je me suis dit, ah! Bah voilà, elle est là, l'occasion. C'est s'il y a un moment où il faut faire un personnage féminin qui sort de toutes les normes, c'est avec She-Hulk, puisque c'est le personnage parfait pour ça. Je veux dire, c'est un personnage qui est monstrueux et inhumain, normalement, c'est comme ça qu'on se le représenterait, qui est pas limité par le physique de son actrice, qui est vraiment très très libre, et on l'a vu avec le personnage Hulk masculin en fait, qui peut être véritablement monstrueux, mais on se rend compte qu'on refuse encore la monstruosité au personnage féminin. Et là, il y a eu vraiment ce truc d'en faire une fit girl, et de base, les équipes qui se sont occupées de son design ont clairement dit que de base, elle était censée être plus musclée, mais que c'est Marvel qui, derrière, a demandé à ce que ce soit constamment de plus en plus affiné, pour qu'au final, ce soit une grande meuf sexy de 2m50, quoi. Et justement, en plus, dans la série, ça joue aussi sur le scénario, ça joue là-dessus, du fait qu'elle soit réduite à ce rôle de fantasme, où en gros, elle veut avoir des rendez-vous Tinder avec des mecs, mais les mecs s'intéressent qu'à son cul super musclé de She-Hulk. Là où c'est vraiment tout le paradoxe, parce que d'un autre côté, la série s'appelle She-Hulk et que c'est eux qui ont voulu qu'elle ressemble à ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un énorme rendez-vous manqué, cette série, parce que même s'il y avait quelque chose à dire sur la sexualité des femmes, enfin ça, c'était le personnage où il fallait faire un truc vraiment qui change, qui explose toutes les normes, et là, on y est resté bien sagement, presque par peur, en fait, de vraiment offrir un personnage féminin qui ne corresponde pas aux standards et à ce qu'en attend le public masculin, tout simplement.
Mais pour aller dans ce que tu dis, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas assumé, qu'il y a une petite impulsion de départ, de renouveau, de voilà, et derrière, en fait, il y a une peur qui fait que, mais tu vois, c'est comme un peu Ant-Man et la Guêpe. La Guêpe, elle était censée avoir l'importance qu'elle a dans les comics, dans les films, ou en tout cas, on aurait pu penser. Maintenant, les films sont vraiment marketés comme étant Ant-Man et la guêpe, comme si c'était un peu un couple égalitaire, on va dire, entre guillemets. Et au final, dans le dernier Ant-Man, la guêpe, elle est à peine là, elle sert à rien.
Alors que dans le deuxième, je trouve que tu sentais, vu qu'elle a le costume à la fin du premier, qu'il y avait un peu un envol, sans mauvais jeu de mots, et que du coup, elle avait un rôle intéressant. En plus, Evangeline Lilly, c'est une bonne actrice. Moi, je trouve que c'était assez stimulant, parce que Ant-Man, bon, le personnage n'est peut-être pas le plus passionnant. En tout cas, le duo, je trouve qu'il fonctionnait bien. Mais c'est vrai que depuis. Je pense son dernier moment de gloire, c'est d'être potiche parmi toutes les potiches du moment Avengers Endgame où t'as toutes les meufs réunies comme s'il fallait un utérus pour sauver le monde et qu'il fallait l'afficher tout ensemble. Là, c'est la parodie qu'ils ont fait dans The Boys est très drôle. Je sais plus, c'est quoi leur slogan dans The Boys quand les meufs elles sont réunies et disent Weekend Girl, je sais pas quoi là, c'est un truc un peu pour se foutre vraiment ouvertement de la gueule.
Je me souviens du moment, mais je me souviens pas précisément ce qu'elles disent.
Et
mais...
la productrice de The Boys a dit vraiment quand on a vu ça, on était atterrés, on s'est dit mais. Pourquoi il faut qu'il fasse un truc comme ça? Et c'est pas la question d'être pour ou contre les femmes, la super-héroïne, c'est qu'est-ce que tu veux en raconter? Et c'est pour ça que je trouve que She-Hulk a un truc assez intéressant, parce que comme vous dites, c'est... En fait, ils étaient au bord du précipice et ils font plein de trucs, c'est vraiment la série de l'ambiguïté. Déjà, perso, je la déteste pas, mais je pourrais pas dire que je l'aime, je sais pas ce que je pense de ce truc, ce truc bizarroïde. Mais quand tu disais, on parle du fait que les personnages féminins sont dérivés des hommes, enfin, vraiment comme Adam et Ève, quoi, c'est littéralement comme ça dans les comics que ça se passe, et ils sont créés avec un nom dérivé, ils apparaissent dans le run du super-héros pour potentiellement après avoir leur aventure. Et dans la série She-Hulk, ils parlent de ça à un moment, il y a ça qui est abordé dans la série, tout comme ils abordent le fait que les séries sont tellement formatées que Kevin Feige est un ordinateur qui crée les scénarios, et tu te dis c'est marrant, il y a un degré de un peu d'irrévérence et d'intelligence, mais au sein d'une série qui elle-même applique les mauvais concepts qui sont censés être dénoncés. Donc à la fin, tu te dis, mais je sais pas quoi penser. T'as l'impression qu'ils font exprès pour que tu puisses pas détester, adorer. Tu dis juste, c'était intéressant en tremblant. Non, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Quoi.
Mais il y a vraiment le fait de finalement, tu parlais de fausses promos, c'est vraiment ça. T'as l'impression que les femmes, elles sont mises en avant dans la promo parce que ça fait bien et parce qu'on a l'impression que ça peut ramener des gens. Et derrière, finalement, elles servent pas. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre cette idée de ça sert en termes de promo, mais au sein du film, ça peut pas servir, tu vois. Parce qu'en plus, la guêpe, elle a même plus, comme maintenant, ils sont mariés, en fait, c'est même plus un love interest, c'est juste Bobonne, quoi. Donc en plus, elle a même pas le peu d'intérêt que peut avoir un love interest dans ce genre d'histoire. Et en fait, c'était la même chose pour Mighty Thor. Finalement, voilà, la promo a beaucoup été faite sur elle, et dans le film, à quoi elle sert en plus?
Non, mais ça, c'est vraiment le pire carnage de Marvel, quoi. T'sais, je me souviens qu'il y avait des vidéos, des vidéos volées, des photos volées où tu voyais le tournage où elle était censée, après avoir pris le marteau, elle s'envolait dans les airs, il y avait une transformation qui avait été tournée. Dans le film, c'est une putain d'ellipse. À quel moment tu ne montres pas en iconisant le moment où elle se transforme? Et du coup, après, elle est réduite à avoir une perruque, encore une fois, putain de perruque. Et à se battre, mais même pas, puisqu'en fait, c'est quoi les scènes où elle se bat, à part sa première apparition dans la rue? Mais c'est tellement filmé avec le cul que de toute façon, personne n'est bien dans ce film. Ouais. Et en plus, son arc tragique, qui pourrait clairement être passionnant au cinéma, est complètement bâclé. Et moi, sa mort, je la trouve, son sacrifice, enfin, je sais pas comment appeler cette merde, ce n'est même pas intéressant, c'est pas du tout dramatique, c'est pas du tout, tu ne te sens pas emporté dans le truc, parce que tout est traité sur un pied d'égalité entre la pire tragédie, qui est le cancer, et le pire gag, qui est tu fais un flashback de comédie romantique avec un animal sur un skate ou une merde comme ça, quoi.
Ouais.
Donc en fait, le film torpille absolument tout, alors qu'ils avaient peut-être le truc le plus dramatique de l'histoire de Thor dans ses films solo. Donc c'est une honte, franchement.
Ça, de toute manière, c'est un problème assez large, on va dire, dans ces films, de plus en plus, de se refuser absolument à mettre des réels enjeux et des vrais risques pour les personnages, et surtout éventuellement bousculer un petit peu émotionnellement le public, voilà. Mais effectivement, là, le personnage féminin qui tenait et sur lequel ils misaient, ils l'ont complètement gâché à travers ça, quoi.
Et c'est même pas comme si on pouvait se dire, oh bah, elle aura d'autres occasions, puisqu'a priori, elle est morte à la fin, elle est à la Valhalla avec Idris Elba, donc autant dire que tous les rebuts oscarisés ou semi-oscarisés du MCU sont à Valhalla, et tant mieux pour eux, hein, mais du coup, elle va pas revenir, elle aura pas de film solo, j'espère. Pas pour elle. En plus, pour info, elle devait faire le Cronenberg à la place. Hein. Elle devait faire les crimes du futur. Et je crois que Thor a dû être tourné pendant 4 ans et demi. En tout cas, c'était pas l'écriture, c'était le tournage qui a pris du temps. Et donc, elle a pas pu le faire. Et donc, ils ont inversé le rôle et tout. Donc, elle aurait pu tourner à Cronenberg au lieu de
Wayne. Cela dit, il est nul aussi. Hein, donc, voilà.
Ouais, mais au moins, t'as tourné Cronenberg. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu tires comme gloire de Thor à part de la thune?
C'est sûr.
Enfin, j'espère pour elle.
Elle a rendu heureux ses enfants.
Oui, non, c'est rien que pour ça, faut pas faire de gosse. Tu vois, c'est la meilleure raison du monde pour pas en faire.
Et qu'est-ce qu'on peut citer du coup comme autre film qui étaient des projets perso qui ont été abandonnés autour de personnages féminins intéressants?
Moi j'ai envie de parler de Jean Grey dans X-Men, parce que c'est quand même un personnage assez passionnant dans les comics, qu'avec le Phénix Noir qui a un arc qui est passionnant, que tous les gens qui aiment les comics adorent, et il a pas été adapté une fois mais deux fois. Non mais c'est hallucinant, genre c'est un des arcs, il me semble, les amateurs de comics aiment le plus, qui est assez important, qui a une envergure de fou, avec un personnage qui est vraiment, encore une fois, déchiré en son fort intérieur par une force dévastatrice mais à un niveau cosmique, et elle a été au centre de X-Men 3 droit à l'affrontement final. Sauf qu'ils se sont dit que c'était tellement pas facile de l'écrire, de l'assumer, qu'il y a eu deux histoires parce qu'il y a un putain de vaccin anti-mutation dans le film. Donc en fait, elle est semi au centre de l'histoire. Et pourtant, Famke Janssen est une bonne actrice, mais c'est tellement dommage qu'elle n'ait pas eu cette occasion de briller quand même, qui avait été teasée dans X-Men 2. Et depuis, il y a eu Sophie Turner dans Dark Phoenix, X-Men Dark Phoenix, qui a été un désastre à tous les niveaux, industriel, écriture, cinéma, vital pour tout le monde. Et elle a encore s'est foirée. Donc depuis, Disney a récupéré les droits, donc j'imagine qu'un jour, peut-être qu'on sera encore vivant, ils feront Dark Phoenix, mais c'est quand même fou que cet arc important, avec ce personnage intéressant, assez important dans les X-Men, ait été foiré deux fois, genre sur le temps de notre vie, tu vois, on a vu ça en direct, c'est incroyable, je crois.
Et tu sais, Geoffrey, tout à l'heure, quand tu parlais du moment dans Endgame, justement, avec toutes les femmes, justement, après, t'as plein de photos qui ont été faites, des captures d'écran, et c'est là, véritablement, que tu te rends compte du peu de diversité physique qu'il y a en fait pour les personnages. Soit comme tu disais juste avant, c'est des versions accessoirisées, donc elles ont la peau bleue, elle est mantis, elle a des petites antennes et tout ça, mais sinon c'est le même physique d'actrice constamment qui sont castées, et puis ça reste de toute façon des personnages qui sont humanoïdes, c'est-à-dire que tous les personnages style Killer Croc, Swamp Thing, Hellboy ou Groot, c'est tous des personnages masculins par défaut, alors que les actrices, elles sont toutes castées pour jouer des personnages humains, et puis elles sont castées dans les mêmes proportions, en fait. C'est, on n'essaie pas d'ouvrir les castings à d'autres profils, en fait, on reste toujours bloqué sur les mêmes, sur les Brie Larson et tout ça, même si j'ai absolument rien contre elles, mais c'est sûr que ça offre assez peu de diversité. Là où tu peux avoir un Paul Rudd versus Mark Ruffalo versus un Chris Hemsworth qui ont quand même des physiques assez différents.
Et je pense aussi, tu vois, quand tu parles de ça, je suis obligé de penser à Jessica Alba castée dans Les Quatre Fantastiques en Suzanne Storm.
Avec sa scène où elle a poil sur le pont, là où elle se fait déshabiller parce que c'est la femme invisible. Et donc à un moment, elle enlève ses vêtements et ses sous-vêtements pour aller sauver quelqu'un. Sauf qu'au bout d'un moment, pouf, il n'y a plus ses pouvoirs. Donc elle réapparaît à poil au milieu de tout le monde.
Tu vois, j'ai rien contre Jessica Alba. Elle a commencé avec James Cameron. Donc a priori, elle aurait pu être une bonne actrice dans une autre dimension. Mais elle, vraiment, quand ils ont casté Jessica Alba, tu te dis, mais je me demande à quoi ils ont pensé. Vraiment. La meuf à l'époque, elle faisait Bleu d'enfer où elle était en maillot de bain sur l'affiche et tout. Elle enchaînait des trucs Honey où elle jouait une danseuse. C'était quand même comment on peut caster Suzanne Storm et tu prends Jessica Alba quoi. Et quand tu vois les mecs à côté, il y aurait Chris Evans, mais le mec principal, Ian Grove, je sais pas comment dire son nom là, le roi Arthur qui joue dans le roi Arthur, c'est un mec, c'était pas une gravure de mode, c'était un mec, ils se sont dit c'est un bon acteur, il a une très belle gueule, mais Jessica Alba c'était vraiment la poupée Barbie. En plus, ils l'ont en la mettant en blonde avec des yeux bleus pour être comme Suzanne Storm, ça faisait encore plus fake et Barbie quoi, c'était incroyable.
Au final, donc on s'aperçoit que en termes de représentation et d'importance des personnages féminins dans ce genre de film, c'est pas tellement mieux, mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est de voir un petit peu ce qui se passe en coulisses, parce que ça se répercute aussi beaucoup sur les actrices elles-mêmes en tant que femmes, pas spécialement en tant que personnages, parce que passé l'effet d'annonce, elles sont, enfin, leurs contrats ou leurs situations sont aussi assez négligées, ou alors elles souffrent aussi beaucoup plus de bashing que les hommes. Donc par exemple, il y a notamment l'affaire qui était sortie à l'époque du casting de Brie Larson, le bashing qu'elle s'était pris pour Captain Marvel, qui était quand même assez ouf.
Oui, mais ça, c'était incroyable. Sur le site, les gens avaient pété un cap dès qu'on parlait de Brie Larson. Et pourtant, alors peu importe ce qu'elle a dit, mais elle a dit que, en gros, c'était même pas sur Captain Marvel, en plus c'était sur un raccourci dans le temps, ce film de merde réalisé par Ava DuVernay, qui est une des rares à avoir fait un blockbuster à plus de 100 millions, pour recouper, parce que c'est le même sujet. Elle a dit, en gros, quand elle a fait la tournée promo de Captain Marvel, je pense, ou de je sais pas quel truc à l'époque, elle a dit, clairement, la plupart des mecs, des gens qui m'interviewent, en tant que journaliste, sont des mecs blancs de plus de 40 ans. C'est un fait. Et ce film a été fait par une femme noire, et le personnage principal, c'est une ado noire. Donc, est-ce que c'est intéressant d'avoir l'avis d'un mec blanc sur un film qui lui est pas vraiment destiné? Et est-ce que ce serait pas intéressant aussi d'avoir plus de diversité pour avoir des avis différents? Et qu'en fait, si ce film est destiné à une femme noire ou une ado noire, il y a une infime chance qu'une femme noire puisse donner son avis et critiquer le film avant. On pense qu'on veut de ça. Mais du coup, quel est le rapport avec « Elle déteste les hommes », son film de super-héroïne, c'est une connasse, elle joue comme une merde, la meuf avait un Oscar, il est quand même pire dans le MCU que Brie Larson. Et du coup, la violence en face était complètement hallucinante. C'est à chaque article, les gens pètent un câble contre elle.
Oui, c'est comme si on pouvait vraiment pas leur... Mais un peu ce que tu disais, tu vois, on peut pas leur pardonner. Les femmes, on peut pas leur pardonner, que ce soit réalisatrice derrière la caméra ou actrice devant la caméra. Je veux dire, s'il y a le moindre petit truc qui dépasse ou le moindre petit faux pas, ça passe pas, quoi.
Et en plus, là, on parlait d'une déclaration de Brie Larson, mais si on revient plus loin, par exemple, ce qu'a vécu malheureusement Alicia Silverstone après Batman et Robin, où elle, véritablement, s'est faite bâcher sur son poids, parce qu'apparemment, on l'a trouvée trop grosse, donc Alicia Silverstone dans Batman et Robin, trop grosse. Donc déjà, c'est assez aberrant de le dire. Et où là, tu parlais de trucs qui dépassent, bah là, c'était un dixième de bourrelet, quoi, et encore. Ouais. Et quand tu vois que, voilà, elles peuvent être bâchées aussi bien sur ce à quoi elles ressemblent que sur ce qu'elles disent, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu pas le droit à l'erreur et peut-être aussi un côté peut-être un peu rebutant au fait de faire des films de super-héroïne quand tu sais comment tu vas être traité derrière. Il y avait eu aussi le cas il y a quelques années avec Scarlett Johansson qui, c'était au moment de la promotion de Avengers, c'était un peu rebiffé pendant une conférence presse parce que justement il y avait un journaliste qui avait posé une double question en même temps, donc une qui était adressée à Robert Downey Jr. où il lui demandait voilà sur la personnalité de son personnage, sa dramaturgie, comment il s'était mis dans le rôle, enfin bref des questions intéressantes que tu poses à un acteur, versus Scarlett Johansson où il avait demandé en fait ce qu'elle avait suivi comme régime pour rentrer dans sa combinaison, où elle avait répondu par un trait d'humour, mais on sentait bien qu'elle était agacée, comme la fois où on lui avait demandé en conférence presse ce qu'elle portait sous sa combinaison de Black Widow. Et justement, là, pour le coup, elle avait été un petit peu moins taquine, elle était un peu plus rentrée dedans en disant que, bah, justement, c'était pas normal que ce soit la première chose qui passe par la tête des journalistes dans les conférences presse, de lui poser des questions sur son apparence et juste, en fait, des trucs, mais absolument sans intérêt. Et surtout qu'en plus, derrière, elle avait expliqué qu'elle, ça l'horrifiait de savoir que des gamines de 14-15 ans, en ouvrant un magazine, vont lire que, voilà, pour ressembler à Scarlett Johansson, il faut manger tel type de graines deux fois par jour.
Et ce que je trouve en même temps intéressant, c'est que vu comme le MCU a traité Black Widow, en faisant plus évoluer sa coupe de cheveux et ses tenues, et en les mettant en avant sur les affiches avec des seins plus gros que ceux de Scarlett Johansson, ce qu'elle-même a reconnu, a incité les gens à traiter le personnage et à percevoir le personnage par le prisme de quel est son corps, quel est son cul, quels sont ses seins. Donc en fait, c'est assez intéressant de te dire ça. Et Scarlett Johansson, au fur et à mesure des années, du coup, qu'elle a un peu pris le contrôle de sa carrière, qu'elle a un peu commencé à l'ouvrir sur certaines choses, elle-même a reconnu que dans Iron Man 2, la scène, elle est, on va dire, en langue de bois un petit peu. C'est vrai qu'on aurait pu la faire un peu mieux. Je sais plus comment elle l'a dit, mais en gros, tu comprenais que si elle la revoyait aujourd'hui, elle se dirait, mais j'aurais jamais signé pour une scène de merde comme ça. Personne n'oserait filmer une scène de manière aussi bête.
Et en parlant de Scarlett Johansson, justement, ce qui est intéressant, parce qu'on parle un petit peu du traitement des actrices, c'est qu'elle a été amenée à poursuivre du coup Disney en justice, parce que du coup, à l'époque, donc son film Black Widow est sorti à l'époque du Covid, donc il n'est pas sorti en salle, il est sorti directement sur plateforme, et que du coup, elle s'est fait avoir sur le contrat parce qu'elle pouvait pas toucher du coup de pourcentage sur les entrées. Et du coup, ça a fait un peu de bruit, et voilà, elle les a poursuivies en justice, il y a eu pas mal de gros titres faits là-dessus, et la défense de Disney, c'était un peu de dire, c'était un peu de l'afficher à base de, mais vous vous rendez compte déjà du salaire énorme qu'elle touche, elle vient râler sur quelques, enfin sur de l'argent en plus, elle en veut toujours plus, machin. Sauf que encore une fois, la question qu'on se pose, c'est à quel moment est-ce qu'ils auraient fait ça en Henry Cavill ?
Mais là, ouais, ils ont balancé son salaire, le montant exact. Ouais.
Et en plus, ils ont été dégueulasses. Ils ont dit, en gros, ils trouvaient que c'était une forme d'exploitation du Covid. En fait, c'était pas du tout joli de faire ça alors que le Covid tuait des gens. Du coup, tu vas pas demander de l'argent, connasse, en plus, quoi. Ah, et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont rendu compte qu'en fait, tout le monde était contre eux. Que vraiment, c'était. Parce que Disney, personne n'a vraiment osé faire un truc comme ça à Disney. Surtout chez Marvel, les gens sont des petits soldats, les gens l'ouvrent peu, ils font de l'humour, c'est très light. Tu vois, c'est même étonnant que Brie Larson puisse énerver autant parce que dans le MCU, il y a personne qui énerve autant. Tout le monde les aime bien, tout le monde les trouve sympas, ou tout le monde s'en fou. Et elle a vraiment fait un truc qui était un peu inédit, et au final Disney a clairement dû sentir qu'ils avaient déconné en étant dans cette réaction avec elle. Du coup, ils ont trouvé un accord, et a priori, selon les médias, elle aurait touché 40 millions du coup pour clore l'affaire et s'excuser.
Voilà, surtout qu'en plus négocier des bonus sur les entrées en salle, c'est pas du tout quelque chose qui est rare ou qui était un traitement exclusif pour elle. On sait que Robert Downey Jr. Véritablement, il a touché un pactole en plus pour Endgame. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est courant. Et là, en fait, la défense, et je dis pas que c'est les intentions qu'ils avaient, mais la façon dont ils se sont défendus, ça faisait un peu regarder cette femme vénale qui en a que pour l'argent et qui en demande toujours plus, en fait, en jouant sur des stéréotypes totalement inconscients, hein, mais sur des stéréotypes sexistes.
Mais justement, est-ce que, enfin, on en vient à se demander si qu'il pourrait pas y avoir aussi un petit peu de soutien du point de vue de l'industrie, tu vois, des acteurs, de ceci, de cela, parce que au bout d'un moment, il faut pas. Oui, tu penses à quelque chose?
Non, parce que tu parles de soutien des acteurs, et du coup, ça me rappelle quand c'était la sortie de Avengers, l'ère d'Ultron, justement, il y avait une interview avec Digital Spy, si je dis pas de conneries, avec Jeremy Renner et Chris Evans. Et justement, une des journalistes pose la question, voilà, Black Widow, on sentait qu'elle était un petit peu attirée vers Captain America, mais elle a aussi une relation particulière avec Hawkeye et Hulk. En gros, où va aller son personnage sentimentalement? Et là, il y a cette réponse, mais d'une classe infinie de Jeremy Renner, qui se contente de dire, en gros, c'est une pute, c'est une grosse traînée et tout, dans un gros éclat de rire bien gras. Et voilà la vision de ses coéquipiers sur son personnage. Évidemment, il parlait pas de Scarlett Johansson, mais de son personnage. Mais ça prouve bien le fait que le personnage n'était pas pris au sérieux. Mmh. Donc, 2015, l'ère d'Ultron, quant à ses coéquipiers qui se permettent de dire que son personnage est une pute dans une interview, et slot, hein, et war, les mots ont été prononcés.
Ouais,
hein,
c'est la promotion du film, quoi. C'est vraiment.
Voilà, donc c'est vraiment pas de l'extrapolation ou de l'exagération. C'est qu'ils ont vraiment prononcé ces mots-là. On se dit, oui, bah, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle allait pas avoir son film, étant donné que véritablement il y avait un manque de prise de sérieux du personnage.
Et c'est vrai, quand tu regardes les films en même temps, c'est pas du tout pour dire qu'ils ont raison, mais comme quand le journaliste demande ce qu'elle porte sous ses fringues, sous son costume, quand tu regardes la trajectoire de Black Widow, elle a été donc dans un rapport un peu de séduction, même si c'était semi-professionnel, avec Iron Man dans le premier, parce que clairement elle est là pour le charmer, s'approcher de lui pour des raisons Shield, mais quand même. Elle a une relation quasiment amoureuse peut-être avec Hulk, en tout cas ils ont un truc vraiment platonique, mais elle lui touche le bout du doigt pour le détransformer, donc a priori il y a un truc entre eux. Hawkeye et Captain America, ils ont aussi une relation qui a peut-être un peu ressemblé à du flirt, même si avec Captain America il y a un truc qui devient un peu rapport frère-sœur, mais quand même ils s'embrassent dans le deuxième, et tu sens qu'ils jouent un peu tout le temps sur ce sous-texte. Et avec Hawkeye aussi, il y a une relation tellement privilégiée qu'à chaque fois tu dis, mais c'est privilégié parce qu'elle est super intelligente par rapport aux autres, et du coup elle est humainement compatible pour discuter, ou est-ce qu'il y a eu une sorte de tension sexuelle ou quoi que ce soit? Je trouve que les films ont quasiment passé en revue tous les mecs en se disant, bon, peut-être que bon, elle est morte, c'est fini.
Jusqu'à ce qu'ils aient abandonné la relation avec Bruce Banner, donc Hulk, sur la simple justification de ça prenait trop de place dans le scénario et on savait pas trop où on allait avec ça, quoi. Donc du coup on a laissé tomber. Donc Black Widow est passé de personnage qui a des relations, en tout cas des relations ambiguës avec les trois quarts des personnages masculins, à je suis seule et je finirai seule.
Et pour autant, tu vois, une des plus belles scènes de tout l'MCU avec Black Widow, je trouve que c'est dans Endgame. C'est une scène toute conne, ils ont un sandwich, ils sont en train de manger Captain America et elle, et en fait il y a eu le blip, donc en fait c'est la dépression, et ils discutent tous les deux, et en fait elle lui dit, mais en fait je sais pas quoi faire, et il me semble, et il y a un truc du genre, je sais pas quoi faire parce que en fait j'ai l'impression que toute ma vie j'ai consacré à ça, et du coup quel est mon but maintenant, on a échoué. Et tu sens ce moment super humain, super simple, et je me souviens m'être dit, c'était un peu la meilleure scène du film, point de vue dramaturgie. Tu sens qu'il y a un truc très joli qui se passe entre les deux acteurs, entre les deux personnages, et c'est paradoxalement, alors qu'il n'y a plus de tension sexuelle, puisqu'à ce moment-là, tu sais que Captain America et elle, ils sont pas ensemble, il n'y a pas de tension sexuelle, c'est juste un frère et une sœur, deux potes, et ils parlent humainement. Et tu dis, putain, mais tout ça pour arriver à ça, pour l'avoir, avec en plus ce truc, pour le coup, assez intéressant, tu vois, il me semble que sa couleur, en fait, elle ne fait plus sa couleur. Parce qu'en fait, elle est en dépression de « c'est la fin du monde ». Elle n'a plus de raison d'être dans ce rôle dans lequel elle était coincée avant, et en tout cas qu'elle portait. Et du coup, tu vois que sa couleur naturelle repousse et qu'elle n'a pas encore fait sa couleur. Tu sais, c'est des petits détails, mais tu te dis, c'est marrant. C'est un peu comme s'ils avaient essayé de clore avec des mini-détails des arcs entiers de poupées Barbie géantes. Ouais. Et c'est des moments où tu te dis, c'est un peu trop tard, mais bon, ok, j'en prends note, quoi.
Ouais, du coup, on voit que malgré tout, même s'il y a de plus en plus de super-héroïnes qui sont proposées, au final, on a l'impression, quand on les évoque, de toujours un petit peu revenir aux problèmes de base qu'on évoquait au début, et des problèmes de représentation qui étaient déjà les mêmes, finalement, il y a 20, 30 ans ou même plus, et que, on a l'impression que là, effectivement, avec un certain féminisme de façade ou de marketing et une sorte d'obligation morale, j'ai envie de dire, mettre en avant des personnages féminins et l'intérêt que ça peut avoir parce que ça attire un certain type de public ou parce que c'est l'occasion de montrer des belles meufs à l'écran, au final l'évolution elle est pas, c'est pas encore là, quoi. On va dire que c'est pas il faut autre chose pour que ça devienne pérenne, pour que ça devienne vraiment intéressant.
En fait j'ai un peu la sensation qu'il y a eu, c'est encore trop de l'ordre de l'exception quand ça cartonne, parce que si tu regardes les chiffres, Captain Marvel et Wonder Woman 1 ont cartonné, donc c'est un peu ouvert les portes, genre en fait les gens peuvent aller voir des films avec des femmes. Mais depuis il y a eu Dark Phoenix qui s'est méga planté, il y a eu Birds of Prey qui n'a pas pas du tout été un succès. Wonder Woman 1984 et Black Widow, malheureusement, sont un peu victimes de la pandémie, donc c'est compliqué de compter parce que les chiffres sont pas complets, mais ça n'a visiblement pas été des super cartons. En tout cas, Wonder Woman n'a clairement pas été détesté par les gens. Et si tu remontes après à Supergirl, Catwoman, Elektra, Iron Flux, tout ça ont été des bides. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a toujours la fragilité, il y a toujours pas la vraie conviction que les gens peuvent y aller. Alors qu'il y a eu tellement de succès avec des super-héros masculins qu'en fait, à chaque fois, l'exception devient le bide. Mais oui. L'exception pour les films de super-héroïne, c'est le succès encore. C'est peut-être ça qui leur donne autant envie de trembler à chaque fois. Et c'est peut-être pour ça que ça n'avance pas.
Oui, voilà ce que j'allais dire, puisque là, on a eu un petit peu la vague où on rattrapait un peu le retard, donc on sortait plusieurs projets avec des super-héroïnes. Mais au final, on regarde là sur les sorties de 2023-2024, bah, les films, il y aura The Marvels, donc qui ne s'appelle pas Captain Marvel 2, mais The Marvels, donc on enrobe un petit peu le truc. Et sinon, bah, y a quoi d'autre ?
Bah ouais, puisque Bad Girl a été jeté, donc on le verra ça jamais. Aussi, et quand on voit The Flash, peut-être que c'est pas plus mal, mais en tout cas, il n'existe plus, on pourra pas le voir.
Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi The Flash et pas, pourquoi pas Bad Girl ?
On se pose la question. mais oui, puisque Wonder Woman forme Gal Gadot a été gentiment annulé, donc ils disent Wonder Woman reviendra à jour, mais du coup, bah, on sait pas quand, ni comment, ni avec quoi.
Pas de projet Catwoman.
Toujours pas, mais ouais, ça je comprends pas.
Birds of Prey 2, ben ouais, il n'y en aura que... pas.
Ouais. Éventuellement, du coup, peut-être une Supergirl, mais est-ce que c'est à souhait ?
Bah ouais, c'est vrai qu'ils ont annoncé ça parmi tous les projets de DC, mais donc on ne sait pas si c'est avec Sacha Caillé qui joue dans The Flash et on ne sait pas si le film va arriver. DC, je pense qu'ils ont annoncé 50 projets qui n'ont jamais vu le jour ces 20 dernières années, ces 10 dernières années. Donc là, on va surtout voir comment Superman Legacy se passe. Et je pense qu'à partir de là, on verra si James Gunn et Peter Safran sont virés comme 43 autres personnes d'avant chez DC. Mais c'est encore un peu flou. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose auquel s'accrocher. Là.
Puis même, il y avait eu un moment sur toute la série Disney+, qui était clairement là en fait, pour présenter la nouvelle génération de héros. Il y avait ces commentaires qui revenaient très souvent, que ce soit juste de simples remarques ou des reproches de « Ah bah maintenant, c'est plus que des femmes. » Et c'est... Enfin, il n'y a pas que des femmes, mais c'est vrai qu'on a eu une prolifération de personnages féminins.
Prolifération, on dit comme ça, quoi. On dirait.
C'était pas ça, c'est méchant. Il y a eu une multiplication. Voilà. Une multiplication des personnages féminins, que ce soit Kate Bishop pour remplacer Hawkeye, la nouvelle Black Widow, She-Hulk, Miss Marvel. Pour autant, tous ces personnages qui, certes, ont eu leur série ou qui sont amenés à prendre la relève de d'autres héros, eh ben, pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'ils auront leur film solo, qu'elles auront leur film solo au cinéma. On imagine, oui, bien qu'elles seront dans une scène post-générique de tel film, qu'elles apparaîtront dans telle scène, qu'elles seront dans tel Avengers, mais pas de projet de film solo sur elles. Donc, ça reste quand même un progrès, mais qui se fait... Bah voilà, sans trop de risques sur Disney+, là où les enjeux sont quand même beaucoup moindres au niveau du box-office.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que je suis curieux, quand il y aura les Avengers 5 et 6, qui sera dans la bande ? Alors, il y aura a priori Captain Marvel, puisque c'est une des plus puissantes. A priori, il y aura Black Panther version Letitia Wright. Mais du coup, c'est même pas un choix. Ils ont subi, évidemment, la mort tragique de Chadwick Boseman. Donc, c'est même pas vraiment une décision. Et après, ouais, c'est qui les autres, effectivement ? Donc, il y a pas tant que ça. En plus, je trouve que The Marvels, donc Captain Marvel 2, c'est assez dingue et je me demande à quel point c'est pas un truc kamikaze comme Supergirl dans The Flash. Tu te dis, mais tu prends une super-héroïne qui a eu son film solo, tu fais une suite dans laquelle tu mets Miss Marvel qui est apparue dans 6 épisodes de merde sur Disney+, et tu prends un personnage qui est apparu en arrière-plan de WandaVision. Tu mets les trois ensemble. Mais tu sais, c'est trop bizarre comme décision.
Ouais.
Qui a eu droit à ça ? Le dernier qui a eu droit à un film solo qui est devenu un film de groupe, c'était Captain America. Et c'était Civil War avec un espèce d'Avengers 2.5. Donc franchement, The Marvels, ça peut vraiment être un énorme coup bordélique qui confirme que les gens veulent pas des super-héroïnes, peut-être. Ouais, demande si c'est même pas fait exprès pour que ce soit autant le bordel.
Et du coup, bah, quitte à regarder un petit peu vers l'avenir comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme... Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je me dis, j'en parlais un petit peu au début, du fait que le personnage de Poison Ivy est sous-exploité de manière générale au cinéma, parce que bon, à part la version de Uma Thurman dans le catastrophique Batman et Robin, finalement, elle a pas été plus adaptée que ça, alors que pourtant, c'est un personnage... Moi, je trouverais ça hyper intéressant de le mettre en avant aujourd'hui, parce que, évidemment, que tu peux lui rattacher des considérations écologiques, voilà, que c'est quand même un personnage qui a beaucoup de potentiel, en plus qu'à des runs, c'est pareil en termes de comics qui sont très détachés pour le coup des personnages masculins, et je trouve qu'il y a des tas de choses à faire. Je comprends pas pourquoi on n'a pas encore fait revivre Poison Ivy au cinéma, et moi c'est un peu ce que j'attends perso.
En plus, c'est vrai que quand ils ont sorti le Joker avec Joaquin Phoenix, on disait tiens, ils vont peut-être ouvrir une espèce de sous-label DC au cinéma en mettant en avant Mr. Freeze ou tout un tas de personnages comme ça qui sont cool, un peu anti-héros et tout, et Poison Ivy aurait carrément pu être là. Et en fait, je comprends pas comment Peut-être qu'ils ont raison, mais pourquoi DC et Warner ne jouent pas plus la carte des séries et de remplir leur catalogue, même avec des téléfilms, entre guillemets, des SVO des films, pour exploiter le catalogue DC, comme ils font avec le Pingouin, mais c'est encore un premier pas, mais je comprends pas pourquoi le Pingouin vraiment a sa série, alors que d'autres personnages iconiques comme Catwoman ne l'ont pas. Ni, mais c'est là que je m'attendrais à ce qu'il y ait plus de personnages comme ça exploités.
Oui, bien sûr.
Et comme truc que j'attends, moi... Moi, c'est peut-être le cloisonnement entre quel genre fait quel film. Donc, tous les films de super-héroïnes doivent être faits par une femme ou co-réalisés par une femme, comme Captain Marvel. Et pourquoi pas une femme pour réaliser Avengers 12 et Captain America 43, tu vois ? Et pourquoi pas après, dans l'autre sens, ça marche peut-être moins, parce que justement, donner à un homme un film de super-héroïne, c'est justement un des problèmes, c'est que les femmes n'avaient pas accès à ces postes-là. Mais
dans l'idéal, un jour, il faudrait que ça puisse arriver.
Tu dis, à un moment, il faudrait qu'il n'y ait plus de cloisonnement, mais le décloisonnement passerait plutôt par filer tout un tas de jobs à des femmes. Et je pense qu'a priori, une femme n'a pas forcément comme obligation ou unique envie de faire un film de super-héroïne. Elle peut aussi se mesurer à des trucs différents. Il y en a plein qui l'ont déjà dit.
Je suis d'accord. Pour terminer le petit tour de table, moi, je pense que ce serait par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le choix des actrices pour jouer les personnages. C'est vrai que choisir une actrice qui a déjà une musculature beaucoup plus développée que la normale, ce serait quelque chose que j'aurais vraiment envie de voir. Parce que quand c'est fait, par exemple, dans Ant-Man 3, avec cette actrice qui a vraiment des épaules super impressionnantes et qui est vraiment badass quand tu la regardes, au final, ça reste un personnage ultra tertiaire qui se bat à peine. Je crois qu'elle filme deux coups et puis c'est tout. Et après, on pourra toujours dire que Hollywood déborde d'acteurs super musclés et que les femmes musclées, déjà entre musculateurs hommes et femmes, il y a forcément déjà un fossé, mais il y en a quand même beaucoup moins. Et je me dis, mais pourquoi ne pas aller chercher du côté, je sais pas, par exemple, de l'UFC ou du catch, vu que le catch, par rapport à la WWE, il y a vraiment une accointance avec le cinéma et il y a énormément de catcheurs qui soient en cours de carrière ou en fin de carrière qui sont justement recrutés et embauchés pour leur physique. Ne serait-ce que là, il y a Seth Rollins qui va jouer dans Captain America 4. On imagine très bien pourquoi il a été casté, parce que là, c'est même pas une question de musculature, mais c'est vraiment juste sur ses aptitudes de cascade, de combat. Et je me dis, mais oui, mais une actrice qui jouerait, qui viendrait du milieu du catch, qui aurait déjà un physique différent des autres actrices, qui aurait en plus des compétences de combat où on pourrait plus s'amuser dans les scènes d'action et arrêter d'avoir ce truc un peu dégueu là, toujours monté et cuté de la même façon où au final tout est fait pour cacher la doublure et le fait que les acteurs n'ont pas les compétences pour réaliser les scènes de combat, là ça donnerait un truc quand même qui a vachement plus de gueule. Et quand tu vois qu'ils l'ont fait dans Mandalorian pour un personnage ultra secondaire, je me demande pourquoi c'est pas fait à plus grande échelle et pourquoi c'est pas un peu plus un automatisme.
En plus, ils l'ont pas fait pour She-Hulk, mais pourquoi ils pourraient le faire ? Parce que She-Hulk, ça aurait été l'occasion parfaite.
Mais
ils auraient peut-être même pu faire comme à l'époque de la série des années 70 ou 80, avec vraiment deux actrices différentes pour avoir les deux physiques et pour vraiment avoir une transformation à moindre coût.
Là, il y a une seconde actrice qui prête son corps justement et qui fait 1m90, qui est super grande. Après, dans le personnage de She-Hulk, c'est vraiment celui qu'on aurait pu déformer, l'excès, vraiment faire un personnage qui n'a pas de proportion humaine, comme Hulk, simplement, d'en faire son homologue masculin qui n'est pas là pour plaire au regard, quoi. Pas une fit girl avec un super bon cul, quoi.
De toute façon, est-ce que ça existe des personnages monstrueux qui sont pas qui sont féminins, qui sont...
Alors, honnêtement, justement, avant, je disais on leur refuse. J'ai peut-être l'exception qui confirme la règle. C'est quand là, on a fait notre papier sur la série Flash et les effets spéciaux dégueulasses. À un moment, justement, il y a un personnage féminin dans la saison 7 qui apparaît. Donc, je crois que c'est en one shot et c'est pas du tout un personnage récurrent. C'est Alexa Rivera. Elle débarque, elle se transforme, tu vois pas la transformation. Et là, c'est une montagne, un truc ultra monstrueux, vraiment une créature. Et je suis en mode waouh! Le fait que je tique dessus, c'est vraiment la preuve qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir ce genre de personnage. Et vraiment, c'est le seul que j'ai trouvé.
Ouais, non, mais c'est enfin, en tout cas, la preuve qu'il reste plein de problèmes à régler et plein d'évolutions à espérer. Mais du coup, c'est un sujet hyper passionnant. On a beaucoup de choses à dire dessus. Peut-être que ce serait intéressant qu'on en fasse un dossier et un truc.
Un dossier, je vois pas comment. Franchement, c'est un peu ça. Ça fait 4 heures qu'on parle.
Oui, 80 pages. Voilà notre thèse.
Et en vidéo, je vois pas si on commence à devoir les recenser, faire un top ou un flop. C'est un peu chiant. On a déjà fait une vidéo sur Wonder Woman. On a parlé justement de comment c'était filmé à l'époque du premier. Donc, on n'a pas incorporé le deuxième dedans.
Peut-être un podcast alors.
Ah ouais.
Un podcast, ouais.
Ouais, plus
si
simple.
Si un jour on fait un podcast.
Mais alors du coup, si on fait un podcast, ça veut dire qu'il faut que les gens pensent à s'abonner, à mettre des commentaires, à mettre des étoiles, tout ça, parce que ça nous aiderait évidemment beaucoup à vivre et à continuer.
Oui, ça nous confirmerait qu'il faut qu'on continue le podcast.
Yes, donc, soyez nos super-héros.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.